Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme sur RMC. C'est votre émission de foot préférée tous les jours sur RMC, du lundi au vendredi, de 18h à 20h, avec une Dream Team de grande qualité. Jérôme Rotten n'est pas là aujourd'hui, on pense à lui, on l'embrasse, mais on a quand même convoqué trois légendes du football français, à commencer par Christophe Dugarry. Salut Dugarry.
Salut mon poulet, bonsoir à tous.
Ça va Dugarry, t'es en forme?
Ben ça va très très bien, ravi d'être là mon poulet, une nouvelle fois, on va se régaler.
Ah bah ouais, ouais. Il y a des sujets pour toi.
Super intéressant. Exactement, ça va être encore très, très intense.
Dugarry, on a un ballon d'or avec nous. Eh oui, Jean-Pierre Papin, la légende, est là. Salut JPP.
Salut les amis.
Ça va
Jean-Pierre? Ouais, ça va.
Le genou alors, ça va mieux?
Ça va, ça commence à ressembler à quelque chose, ça me va bien.
Ah bon. Tu sais que, attention Dugarry, hein, il va te rejoindre dans le club des golfeurs. Parce que JPP m'a dit, moi j'arrête le paddle, toutes ces bêtises, maintenant c'est vélo et golf.
J'ai pas le choix. Excellente idée. Attention, mais il faut marcher quand même au golf, à boîte à la voiturette, tu me diras.
Ouais, t'inquiète, ça va, il y a la voiturette, c'est bon.
D'accord, très bien. Ben écoute, quand tu veux, on se fait une partie avec grand plaisir.
Et ben voilà, avec plaisir. Magnifique. Et puis le plus jeune de la bande, alors lui il est encore au paddle, il est encore au foot, ouais. Il est encore même à la Kings League et à la salle de sport, c'est Benoît Costil qui est là. Salut Benoît.
Salut Benoît, salut à tous. Moi je peux conduire la voiturette si vous voulez.
Ah voilà. C'est vrai, ça vous pourriez vous trouver
petite dans... glacière à l'intérieur, vous serez bien. Vous
inquiétez pas. Voilà. Avec quelques bonnes bières, c'est ça?
Exactement. La vie, c'est important, non?
Et des huîtres. Ça, oh, des huîtres quand même. Les huîtres,
ah oui,
de Benoît,
des huîtres.
Quand même.
Ouais, bien, oh. sûr. Évidemment, ça va de soi.
Bon. Magnifique programme, vous allez le voir, mais je vous rappelle, la grande opération qu'on met en place la semaine prochaine dans Rotten sans flamme, avis de recherche. Si vous êtes un ancien professeur de Pascal Olmeta, un ancien coéquipier de Christophe Dugarry, une ancienne connaissance de Jean-Michel Larquet, si vous les avez croisés dans votre vie, s'ils ont marqué votre vie, si vous avez marqué la leur, venez nous le dire au 32-16, réservez vos places, ce sera la semaine prochaine, avis de recherche, voilà, autour de Jérôme Rotten, Jean-Michel Larquet, Christophe Dugarry, Manu Petit, voilà, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont en train de tomber, sachez-le, il y en a beaucoup qui sont tombées hier. Je vais pas tout vous dire, mais on aura de belles surprises du gars la semaine prochaine. J'espère que t'es prêt.
Ouais. Je suis inquiet, je te cache pas. Ouais. Mais bon,
vu les témoignages.
Qui peut être rassuré? T'imagines toujours le pire dans ce genre de choses.
Ah ben, il y a certains témoignages qui vont en inquiéter d'autres que toi.
Faut que j'avertisse des membres de ma famille ou...
Bon, allez, je vous livre une coulisse. Hier, on a reçu un témoignage. Ah bonjour, moi j'ai croisé Jean-Michel Larquet avec un match du variété. Je lui ai demandé un autographe. Il m'a dit dégage, petit. On verra, à vérifier. En tout cas, on vérifiera la semaine prochaine.
Vérifier, oui. Après, voilà, est-ce que c'est pas Raymond Domenech qui s'est déguisé pour faire croire que
on essaiera de percer le mystère. T'as raison, bien sûr.
Méfie-toi.
Bon, moi, ma crainte, c'est que tu te souviennes pas des gens qu'on invite.
C'est fort possible. J'espère qu'ils sont pas susceptibles.
Alors aujourd'hui à 19h, Rotten se chauffe. On va parler de l'arbitrage vidéo. Ça a fait scandale hier dans ce 8e de finale de la Coupe de France entre Marseille et Rennes. Est-ce que l'arbitrage vidéo est devenu indispensable? Eh oui, parce que Marseille aurait dû terminer ce match à 10. Il y a eu une énorme faute sur un joueur rennais, Camara. Il y a eu seulement un carton jaune parce qu'il n'y a pas eu d'assistance vidéo. On fera le débat donc à 19h. À 18h45, allô Jérôme, on va reparler du choix d'aller jouer en Arabie Saoudite, notamment pour les jeunes joueurs français. On prendra l'exemple du joueur Kader Meïté qui a donc quitté le stade rennais pour rejoindre Al Hilal. Coup de gueule sur les réseaux sociaux de Jimmy Cabot, l'ancien joueur du RC Lens. Il sera avec nous pour nous expliquer pourquoi ça le dérange autant. Et puis à 18h30, le procès, comme d'habitude dans Rotten sans flamme. Ce soir, on fait le procès de tous ceux qui pensent que les réunions clubs supporters sont utiles. Les avis sont partagés dans la Dream Team. Vous allez voir ça. Ça nous fera un grand procès donc dans une vingtaine de minutes. Et tout de suite, à 18h04 sur RMC, on démarre par l'OM. Sacré soulagement pour les Marseillais hier.
Tout va bien. Tout va bien.
Oui, le but ! L'OM marseillais ! Et l'OM est dans 0 !
Alléluia !
On avait besoin de ça pour les supporters, pour tout le club.
Le but marseillais ! Mason !
Je pense que le niveau, c'est pas une question de niveau.
On a fait un match complet, je pense, avec l'intensité. On a emmené les supporters avec nous et c'est le principal.
J'ai du mal à me situer avec cette équipe rennaise qui est à la rue complet. Le chemin est encore long pour aller gagner à la Coupe de France. Il y a un gros match qui nous attend dimanche soir. Il va falloir aller faire un résultat pour se remettre la tête à l'endroit.
Aubameyang et le 3-0.
qu'il a fallu que je mette une frappe surpuissante. Non, je rigole quand je dis super simple.
1, 2, 3-0 pour l'OM.
Tu que Jérôme, on va être champion.
Tout va bien.
Même toi, t'avais été piqué, le gars. Je sais pas pourquoi t'as dit ça ce soir-là. Bon, une bonne bouffée d'oxygène pour l'OM hier soir. Cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Victoire 3-0 face à Rennes. C'était pas le match de l'année, mais Marseille a assuré l'essentiel. Les buteurs Guiri, Greenwood, Aubameyang. Les supporters étaient derrière leur équipe, même si en début de match, plusieurs banderoles hostiles ont été déployées. On peut en parler avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut à tous.
Bonsoir Flo.
Salut les gars.
Cette soirée était importante. Elle a permis d'apaiser les tensions justement au club.
Oui, c'est vrai qu'il y avait des immenses banderoles, hein. Virage nord, virage sud. Il y a notamment dans le nord un 28 janvier 2026, on n'oubliera pas, donc c'est évidemment la date du match à Bruges. Le virage sud, manque de stabilité, d'ambition, de coronesse, tous responsables, honte à vous. Et puis pareil en virage nord, vraiment des immenses banderoles, hein, avec des grandes lettres noires ou rouges. Après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire. Donc le stade était derrière les joueurs, mais malgré tout, les supporters ont fait passer leur message avant le match. Ça a été entendu avec cette qualif et puis globalement des entames de match et de mi-temps assez intenses. Aubameyang a dit que ça avait fait du bien, cette rencontre avec les joueurs. Et écoutez, Roberto De Zerbi, il était sur la même longueur d'onde.
Les supporters nous ont dit les choses en face et tout était juste. Encore une fois, ils ont été à nos côtés, aux côtés de l'équipe, à part ces banderoles, mais des banderoles qui sont légitimes. Car c'est la vérité qui était écrite dans ces messages. Car oui, à Bruges, on a fait une prestation honteuse. Oui, on est trop irrégulier. Les supporters le savent, ils sont intelligents, ils comprennent très bien le football. Ils voient parfois des gros matchs qui leur donnent espoir et parfois on n'est pas à la hauteur de ces attentes. Donc ils ont raison, tout simplement.
Voilà, la sincérité de Roberto De Zerbi qui a ajouté, c'est pas encore du soulagement car on n'a pas tout à fait la conscience tranquille. Donc une semaine après, Bruges et certaines contre-performances sont encore dans les têtes. Et on le voit aussi dans un message qui a été posté il y a quelques minutes là par Pablo Longoria, le président de l'OM, qui maintenant s'exprime beaucoup sur Instagram. Il fait un long post en disant que ces dernières semaines ont été très très lourdes. Il se confie un petit peu, donc on sent que Marseille est soulagé mais a été perturbé et bougé par les événements des derniers jours.
Exactement. Flo, tu restes avec nous.
Il est bon De Zerbi parce que quand c'est nous qui disons ce que disent les supporters, on est nuls. Ou les journalistes, ils sont nuls. Ils y comprennent rien. Voilà, ils sont contre De Zerbi parce qu'il est italien. Mais quand c'est les supporters qui affichent en tribune ou qui sont face à toi le disent, ah ben ils sont bons, ils ont raison, ils connaissent le foot, ils savent tout. Ben, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est assez original comme façon de voir.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai du gars qui se fait un peu l'analyse qu'on se fait sur le manque de. De l'OM.
Oui, alors après, tu peux me reprocher d'être encore un petit peu plus dur si tu veux, mais le fond de l'analyse et le fond du problème, c'est ça, c'est ce que soulèvent tous les journalistes et Flo, certainement aussi régulièrement, avec ses copains en conférence de presse. Et voilà, il suffit de répondre au football, mais là, comme par hasard, quand c'est les supporters, tu y réponds.
Je précise d'ailleurs que les invitations sont régulièrement lancées. Hein. Nous, que ce soit le président Longoria, Mehdi Benatia ou même Roberto De Zerbi, ils sont les bienvenus dans l'émission dans Rotten Sans Flamme pour s'exprimer. Hein. Nous, il n'y a aucun problème à les recevoir et à débattre des sujets. Qu'on aborde, mais moi aussi j'y crois. Tu es bon, Florent, on y arrivera.
Ah, j'ai lancé des messages, tu as vu, en conférence de presse plusieurs fois. Hein.
Du gars, on y arrivera ? Tu parles encore un peu italien ou pas ?
Oui.
Non, mais sincèrement, tu veux que je dise un truc, j'espère pour les supporters, parce que c'est toujours pareil, tu parles à tes supporters, tu parles à ceux qui aiment l'OM et tout ça, donc ils ont des questions par notre intermédiaire à poser, ils ont envie de réponse et tout. Mais moi, sincèrement, je suis un peu fatigué voilà, donc ça changera pas grand chose à ce que je pense.
Est-ce que c'est une victoire rassurante hier, malgré tout, quand même ?
Ah mais c'est sûr.
Elle était capitale.
Ben oui, c'est en gros d'imaginer la perdre. Alors dans ce sens-là, alors on va dire comme le supporter tout à l'heure a dit, oui, bon, c'est que Rennes, une équipe faible qui a rien montré. C'était un match moyen, on est d'accord, mais fallait le gagner ce match, même sur un match très ennuyeux, très ennuyant. Marseille arrive à marquer 3 buts, donc voilà, bien évidemment que c'est positif. Et voilà, il faut enchaîner là-dessus. Après, voilà, une nouvelle fois, moi, Marseille doit gagner la Coupe de France, donc c'est qu'une étape. Aujourd'hui, après cette honte en Belgique, il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France. Il n'y a aucune discussion possible et inimaginable. Donc voilà, là aujourd'hui c'était quoi, un 8e de finale, donc encore le chemin est encore long. Malheureusement, cette équipe nous a pas amené plus de certitude dans le jeu. Le jeu était parfois par séquence très compliqué et très indigeste avec ce jeu de possession. Et la même chose pour Rennes. Attention, je mets Rennes dans le même bateau parce que je trouve qu'ils ont joué à peu près le même genre de match sans l'efficacité et sans les occasions côté Rennais. Mais je trouvais que ça a été deux équipes qui ont été profondément ennuyeuses. J'ai écouté une nouvelle fois De Zerbi qui dit bon, mais je comprends pas mon équipe. Quand on joue avec un attaquant de moins, de plus, on marque pas de but. Quand on joue avec un défenseur de plus, ben, on prend des buts. Il comprend pas non plus. Donc, écoute, moi aussi, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'attends l'avenir qui nous dira ça avec grand plaisir.
Jean-Pierre, est-ce que tu as été rassuré par la victoire de l'OM hier ?
Alors déjà, je m'attendais à ce qu'ils gagnent parce que c'était une obligation par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Après, moi, sur l'effectif, je pense que l'effectif, la qualité est liée. Le problème qu'à l'OM, c'est que tu sais pas pourquoi il y a des matchs, ils jouent pas au football, quoi. Ils perdent leurs moyens, ça marche pas, il y a rien qui va. Et puis, et surtout, quand ils sont amenés à jouer contre une équipe qui joue bas, ils ont de gros problèmes malgré la qualité des joueurs. Hier, c'est comme le dit Dugas, ils sont tombés sur une équipe de Rennes qui, je pense, est venue un petit peu aussi avec la trouille. Et quand tu prends un but au bout de 15 secondes,
oui,
tu prends
minutes.
Un but à la
46e. T'as raison de le dire parce que ça influe sur le scénario du match, en fait. Tu mènes au score au bout de 2 minutes, forcément, c'est complètement différent.
Ah, mais ça change tout. Après, ça change tout. Ce qui change tout, c'est que effectivement, Naouri aurait dû être expulsé. Et après, ça change beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui me va bien, c'est que l'OM s'est qualifié d'abord, ça prend des choses. Après, sur ce qu'on a vu hier, sincèrement. Il y a eu des bonnes choses, ça a été un petit peu long à se mettre en place, mais moi ce qui m'inquiète un peu plus c'est que ce soit Greenwood qui fasse tout, quoi, parce que le jour où si tu perds Greenwood, tu perds beaucoup.
Ouais, c'est vrai collectivement, lui il fait une saison de dingue, hein, 22 buts hein, je crois pour Greenwood, ouais, depuis une saison.
Collectivement c'est quand même très très compliqué, quoi, tu vois, des séquences de jeu, on retrouve pas des séquences de jeu match après match, on a l'impression que ça passe pas dans les couloirs, il y a très peu de combinaisons dans les couloirs, il se passe pas grand chose, quoi, en définitive t'as toujours l'impression que c'est le jeu de possession
du coach qui fait que en fait, t'attends toujours la bonne opportunité de faire le décalage, etc. Alors quand tu joues contre des équipes comme Rennes, où à un moment tu t'oublies, tu passes à travers. Mais par contre, quand tu joues contre des équipes qui sont mortes de faim, qui savent que venir jouer contre l'OM, ça va être compliqué, qu'il faut se bouger. Là, c'est plus difficile et souvent, ils chutent là.
Benoît, c'est une victoire
rassurante. N'a pas à se plaindre de l'arbitrage depuis le début de la saison.
Ah bah ça, on en reparlera à 19h. Hein. Ouais.
Ah ouais, il est en ultra faveur de l'OM, quoi.
Les propos de Jean-Pierre m'embêtent un petit peu parce qu'il dit que le Stade Rennais n'a pas été mort de faim, et c'est ce que je reproche un peu au Stade Rennais sur ce match. Et l'OM a eu l'adversité qu'il leur fallait, je pense, sur ce match pour se refaire la cerise, parce que c'était un match qui était plus important qu'on ne l'imagine. Tu perds hier et tu reprends encore une soufflante sévère. Donc ils ont eu le mérite de bien commencer le match avec un bon pressing de Timothy Weah, de marquer là-dessus, pareil en seconde mi-temps. Je dirais que dans l'état actuel des choses, ils ont fait le match le minimum syndical, on va dire. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour passer face à un adversaire malheureusement qui n'a pas mis les arguments pour pouvoir les embêter. Et je pense que c'était peut-être le bon moment aussi pour aller embêter, mettre le doute encore plus à l'Olympique de Marseille et au Vélodrome.
Mais moi, Jean-Pierre, toi qui as été coach, moi, je comprends pas comment, quand tu joues contre Marseille, que Marseille est haut comme ça. Dès que tu as le ballon, verticalise le jeu, joue dans le dos des défenseurs centraux. On sait que la difficulté de Marseille, c'est dans son dos. Depuis le début de la saison, depuis
même depuis que Zerbi est là. Ils ont eu deux fois l'opportunité de le faire, ils l'ont pas fait, ils sont fait punir derrière.
Mais non, mais ils le font jamais. Chaque fois qu'ils ressortaient les ballons, ça ressort de l'arrière, ça fait des passes latérales. Rennes, ouais. Mais crée le danger quand tu récupères un ballon,
tu crées le danger.
Tu verticalises les attaquants qui. Mais c'est fou. Oui, je parle de Rennes, moi. Oui, je parle de Rennes.
Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord sur le principe. Quand on regarde bien jouer Marseille, tu sais qu'à un moment, il faut arriver à caler le ballon et repartir derrière pour jouer dans leur dos. Mais ça, personne n'y arrive, en fait.
Après, moi, je veux bien du gars qu'on fasse un débat du jeu de l'OM depuis le début de saison, etc. Peut-être que hier, la priorité, elle était ailleurs. Du gars, tu connais le contexte de l'OM, tout comme Jean-Pierre.
Ça veut rien dire.
Bah, quand même, du gars, t'es en Coupe de France, tu sors d'une semaine traumatisante.
Passée,
tout ce que tu veux, c'est de qualifier, en fait.
Mais tu crois que ça se passe comment, le football?
Tout le sort au bout de 2 minutes, du gars. À un moment, tu penses à la qualif avant tout, tu vois.
Ah, tu parles de Rennes ou de Marseille?
Non, je te parle de Marseille, moi, je te dis ça. Marseille, en fait, la manière, hier, ils s'en fichaient un petit peu. Tout ce qu'il voulait, c'était se qualifier, je pense.
D'accord. Donc, tu es en train de m'expliquer une chose qui est très intéressante. C'est-à-dire que le coach, quand il est, et les joueurs, quand ils sont avant dans le vestiaire, ils disent, bon, les gars, on va jouer comme des nazes. Ce qui compte, c'est de gagner. Mais non, mais ce que tu veux, c'est bien jouer.
Ce que je te dis, c'est quand tu mènes au score au bout de deux minutes et que t'es sous pression parce que t'as le public qui est un peu hostile, etc. Et ben oui, forcément, il y a un peu de calcul et tu te dis peut-être, ben, l'intérêt, c'est de se qualifier ce soir. C'est pas ce soir qu'on va tenter de jouer comme le Barça ou comme le Brésil.
Alors, mon poulet, j'ai hâte de voir le nombre de matchs que t'as fait. Parce que sortir un truc comme ça, je trouve que c'est d'une aberration totale. C'est-à-dire que t'as marqué au bout d'une minute, tu te dis, bon, les gars, on a peur. Mais non, mais ça veut rien dire.
C'est un match de coupe. Les matchs de coupe, c'est souvent comme ça, malheureusement.
Tu ne penses pas, Christophe, qu'il y a une petite frousse? Il y a une
forcément,
mais
c'est
une frousse.
C'est
justement la frousse. Je te demande, Christophe, je te demande à toi.
Mais la frousse, elle n'est plus au bout d'une minute. Actuel, à partir du moment où tu mènes un zéro, elle n'est plus au bout d'une minute, la frousse.
C'est vrai que c'est la frousse de quelque chose qui te redonne, qui te redonne de l'énergie aussi.
Flo, comment tu l'as ressenti au stade, toi? Est-ce qu'il y a eu ces calculs imprudents?
Et peut-être traumatisé un peu par les 10 dernières minutes du Paris FC où ils menaient 2-0, ils pensaient que c'était fait. Et je pense qu'ils se sont dit, il ne faut pas s'en prendre un. Alors donc, j'ai ressenti beaucoup de prudence. Et d'ailleurs, quand il y a ce troisième but, je ne sais pas si vous avez vu la scène entre Pierre-Emile Loibière, Medina et Balerdi, où ils célèbrent ça, c'est limite.
C'est un peu excessif.
Peut-être excessif, mais, non, mais ça montre quelque chose. S'il n'y avait pas eu la semaine et la pression de la semaine dernière, tu n'aurais pas vu une scène comme ça sur un 3-0 entre des joueurs en plus qui sont ceux qui ont du caractère. Les Medina, Loibière, il en a vécu d'autres qu'un huitième de finale contre Rennes. Donc, il était content d'avoir lancé Greenwood dans la profondeur, but d'Aubameyang. Et là, on les voit célébrer, s'exciter. Et je pense que quelque part ils sont en train à ce moment-là d'évacuer toute la tension qu'il y a eu dans la semaine, parce que je pense que ça a été quand même éprouvant pour eux. Quoi. Ils ont
déçu, 3-0 à Bruges.
Il y a défaite hier.
T'as pris 3-0 à Bruges, t'es allé au Paris FC, tu menais 2-0, t'as fait 2 partout.
Benoît, me lance pas sur ce truc, s'il te plaît. Là, je suis pas d'accord avec vous. Alors, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis de côté les chocottes avant le match, je veux bien l'entendre. T'as la chance d'ouvrir le score au bout de 2 minutes, les chocottes elles partent. Alors, après que tu sois soulagé de gagner 3-0, côté des attitudes quand tu marques, je les comprends. Elles sont légitimes. Il y a une espèce de ouf de soulagement. Mais me parler des chocottes, je suis désolé, des chocottes de quoi? Des chocottes de quoi?
Quand même.
Je vais revenir au score comme ça, des scars contre le Paris FC.
Mais tu te rends compte que
c'est impossible que le PFC marque un
but. Mais mec, si t'as des chocottes sur un truc comme ça, rends le maillot, t'es à l'OM, quel chocotte? Mais arrêtez un peu, on parle de l'OM.
Tu fais pas semblant de découvrir que t'as une équipe qui a été justement fébrile sur beaucoup d'entrées de matchs, sur beaucoup de gros matchs, sur des temps additionnels.
T'as une équipe qui factuellement
a craqué à des moments où on ne les attendait pas. On ne l'attendait pas. C'est resté dans les.
Donc tu l'as dans la tête donc quand tu joues du gars, forcément.
D'accord, oui, bien sûr. Donc vous expliquez. Oui, c'est ça, le match pendant 4
minutes. On n'a pas joué au foot au niveau, mais on a fait de la psychologie. On a fait bac plus 5 de psychologie, Benoît et moi.
D'accord. Avant d'être journaliste, ça m'intéresse. J'ai fait 500 matchs de Ligue 1, donc ça m'intéresse de savoir à quel moment j'ai eu peur, j'ai pas eu peur. Quand on a perdu le match d'avant, ben oui, mais t'as perdu le match d'avant, t'as été ridicule le match d'avant, et ben faut reprendre le match après. Mais dire ils ont eu peur, oh, tu te rends compte, ils ont eu peur, ils ont marqué au bout de 2 minutes, ils ont eu peur, donc ils osaient pas jouer. Mais oh, arrêtez de prendre les footballeurs pour des nuls ou des abrutis ou de ce que vous voulez.
Après,
au bout d'un moment, on est des hommes aussi, on est des sportifs de haut niveau, on a été catastrophique, et ben écoute, on doit se reprendre. C'est pas tout le temps facile, bien évidemment, mais ce mot peur, ça veut rien dire quand on joue au foot. Arrêtez avec ça.
Je t'ai pas dit peur, moi je t'ai dit calcul. Ouais. Forcément, quand tu ouvres le score, tu sais le nombre de fois où tu t'es fait reprendre sur des fins de partie, bah tu te dis, bon, peut-être qu'aujourd'hui on va faire attention parce que c'est pas le moment de se prendre une nouvelle clim.
Mais quand les 10 dernières minutes, final, ils mettent 3-0
quand même.
Oui.
Mais voilà, il est arrivé, ils mènent 3-0, donc ils n'ont pas eu si peur que ça non plus.
Moi, Benoît, il m'a vendu un Dugas rassuré, optimiste. Attends, je suis.
Mais non, mais bien sûr que.
Ah, mais arrête de me mentir, Benoît, quand tu m'appelles, qu'on prépare les émissions, tu me dis, tu verras, Dugas, il est enthousiaste, il a vu un beau match de l'OM.
Je crois que c'est ma réflexion sur la peur des joueurs.
Si t'as dit ça,
moi, je vous entends.
On peut chambrer un peu ou
c'est peur? Moi, je vous entends vous battre avec le mot peur. Je suis pas d'accord sur le mot peur non plus. Je serais plus d'accord sur le mot
fébrilité, allez.
Ouais, je suis plus d'accord sur le mot
si
doute,
voulez,
parce que quand t'as fait les matchs que t'as fait les semaines d'avant, même quand tu mènes 2-0, à un moment, t'as toujours, quoi qu'il arrive, le souvenir dans la tête de ce qui s'est passé avant. Et je pense que quand on voit la scène avec Medina et Olbier, ouais. C'est un vrai soulagement, parce qu'il reste pas beaucoup, et là, ça fait 3-0. Mais je pense que quelque part, dans leur tête, ce doute, ils l'ont eu longtemps.
Accueillons, tiens, Laurent, supporter de l'OM, qui veut participer au débat au 32-7. Je remercie Florent Germain qui est venu avec nous et qui a électrisé le débat un peu. Bravo, Flo.
C'est toi qui as parlé de peur en premier, Benoît.
Ouais, c'est vrai.
Allez, à toutes.
Allez. Salut, Laurent.
Ouais, bonjour, messieurs.
Ça va ?
Salut. Ça va bien, ouais.
Est-ce que c'est une victoire rassurante pour l'OM ?
Non, pas du tout. Je suis complètement sur la ligne de Duga. Les mecs, ils mènent 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Merci Merlin. Ouais. Mais au lieu d'appuyer, combien il y a eu de tirs dans le match de Marseille ?
Alors, je vais te dire ça tout de suite. Les stats 4. Du match, il y a eu
7, je crois. 7,
4 9 cadrés, tirs, 4 cadrés.
Voilà, 4 tirs cadrés. Ouais. Avec la domination qu'il y a eu. Comment
ils ont
a
eu peur, tu peux pas comprendre.
Comment il n'appuie pas sur l'accélérateur sur la première
mi-temps ? Les gars, vous gagnez 3-0, vous voulez quoi de plus ?
Ben c'est
non,
ça.
Non,
ben
oui. 0, non, non.
Ah bon ?
Jusqu'à 3 minutes de la fin, on était à 2-0.
Ah oui ?
Et alors ?
Comment, oui, c'est vrai, c'est différent.
Comment on n'appuie pas sur l'accélérateur ? On a vu du jeu stérile, du jeu à la Marseillaise qu'on voit depuis le début de la saison. Là-bas, balle, je passe à droite, je passe à gauche, je reviens derrière, Balerdi, Delange, Balerdi, Medina, Hojbjerg. Balerdi, on ne voit que ça cette année à Marseille. Ça fait un an.
C'est ça depuis deux ans. C'est ça depuis deux ans.
Oui. Eh ben oui, mais c'est pas du jeu droit au but.
Mais parce que c'est parce que mais nous parce que alors moi je comprends ce que tu veux dire. Mais quand on a un coach qui a une philosophie qui est la possession comme le fait Guardiola, comme le fait d'autres. C'est quelque part c'est normal de jouer comme ça. Sauf qu'encore une fois à Marseille. Comme le problème qu'à Marseille, on préfère être Liverpool que Manchester City. C'est ça oui, en fait qui aujourd'hui
oui,
manque un petit peu.
Liverpool,
oui, mais c'est on préfère dans la philosophie être Liverpool que Manchester City. C'est-à-dire qu'on a une devise qui s'appelle droit au but.
Exactement.
Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui comprennent pas qu'on n'y va pas beaucoup.
Non mais tu vas pas comparer le jeu de City avec le jeu de l'OM quand même.
Mais ça n'a rien à voir.
Non, mais Jean-Pierre, il vous parle de philosophie. Il dit qu'à Marseille, tout doit jouer vers l'avant. La baballe, ça ne marche pas. C'est ça qu'il dit.
Position de balle, il y a deux clubs qui sont spécialistes de ça. C'est le Guardiola et c'est le Barça. Le Barça, ils attaquent un peu plus que Marseille quand même. On les voit un peu plus souvent tirer au but. Ils sont un peu plus dangereux que le jeu que fait Marseille.
Ils n'ont pas les mêmes joueurs. Ils n'ont pas les mêmes joueurs.
En crise, il y a deux jours, tu vas comparer au Barça. C'est compliqué.
On regarde, on sort, admettons, pas de bol. Greenwood se pète, on fait comment ?
Ah ben
on
n'a
plus personne.
La dépendance à Greenwood, Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est sûr.
Il n'y a plus de joueurs de ballon. On a qui ? On a Traoré. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait rien. On ne l'a pas vu. Pacheco, il tue les pigeons. Il a mis un but contre
l'Ajax. Laurent, tu regardes l'effectif.
Tu vas avoir un milieu de terrain là, que Marseille n'a pas, un profil que Marseille n'a pas. Là. J'ai vu, ils ont recruté un joueur, j'adore. Là. Tout le monde est en train de répéter ça. Marseille a recruté un milieu de terrain avec un profil qu'ils n'ont pas.
Lequel
le Nigérian.
Ah oui, Nadi.
Voilà, je crois que c'est celui-là.
Ouais.
Voilà, c'est un profil que Marseille n'a pas. C'est-à-dire qu'un récupérateur avec de l'impact physique. Voilà, super. Mais comme si Kolberg, il le faisait pas, comme si que les autres, Kondogbia, il était pas capable de le faire. Voilà, il a un profil particulier parce que il a du gabarit et il met de l'intensité. Ah ouais, mais on t'a vendu le joueur comme ça. Magnifique.
Mais moi, j'entends ce que tu dis, Laurent, juste pour terminer, et c'est ce qu'on se disait un peu en début d'émission. Avec l'effectif que t'as, tu peux aller chercher tes objectifs de fin de saison quand même désormais, non? Tu peux aller loin en Coupe de France et tu peux terminer sur le podium de Ligue 1 quand même.
Mais non, pas
et
du
pourquoi
tout.
Pourquoi non?
Le week-end prochain, Lyon est devant nous. C'est fini.
Mais le championnat
Lyon
est
va
long.
Bloquer. Lyon va être 3e, nous on va être 4e, peut-être. En Coupe de France, le prochain match, tirage au sort, on prend Lyon chez eux, on a perdu. Lyon va nous finir devant. Avec des gamins, avec des joueurs qu'on pensait qu'ils allaient être en Ligue 2 l'année prochaine.
Lyon, qui est en pleine réussite, qui a encore toutes les compétitions à jouer, tu penses que Lyon va tenir comme ça sur ce rythme jusqu'au fin de saison?
Bien sûr, le week-end dernier, ils avaient combien de blessés, Lyon? Ils ont gagné le match.
Oui, non, mais tu l'as vu le match aussi. T'as vu la réussite des Lyonnais? Enfin, c'est...
D'accord. Bon. C'est vrai que Marseille, on n'a jamais eu de réussite dans nos matchs. C'est vrai.
Bon.
Non, mais là, c'est une année où ça va être compliqué. Si on finit quatrième, Inch'Allah, ce sera déjà beau.
Bon, ok.
Moi, je suis moins pessimiste quand même.
Ah voilà. Ouais, merci Laurent.
Je suis vachement pessimiste, par contre. Ouais. Ça, c'est sûr.
Faut voir quand même aussi le niveau des autres équipes aussi. Voilà, Marseille a quand même l'effectif et les joueurs pour faire le boulot, pour faire le job. S'ils sont pas capables de le faire, eh ben écoute, ça sera un énième échec. Je comprends l'inquiétude du supporter aussi parce qu'il en a marre de tout ça. Je peux le comprendre, mais
ça reste la meilleure attaque de Ligue 1, tu le sais bien, Duga, l'Olympique de Marseille.
Meilleure attaque, voilà, deuxième plus gros budget.
Voilà.
C'est le favori pour gagner la Coupe de France. Hein,
ah bah là oui. Oui, mais bon, ça c'est pas arrivé depuis 1989.
Ben,
je voulais te faire réagir à une info du jour qui a été sortie donc par Florent Germain qui a dû nous laisser là. On réfléchirait à Marseille à relancer la concurrence dans le but entre Rouli, qui est en difficulté sur les dernières semaines, et Delang, qui a hier à jouer et qui n'a rien eu à se reprocher. À chaque fois qu'il a joué, ça s'est bien passé pour lui. On réfléchit à ça pour le match de dimanche au Parc des Princes. Comment tu réagis, toi, l'ancien gardien? Tu te dis c'est le moment peut-être de changer, ou il faudrait conserver Rouli pour le choc face au PSG?
Non, je laisserai Rouli. Sur les, c'est quoi, un an et demi qu'il a à l'OM, Rouli? T'as ouais. sorti des miracles quand même. Tu lui dois une fière chandelle sur la qualif en Ligue des Champions. Effectivement, hein, depuis le match, peut-être un petit peu avant, depuis le match de Nantes, tu sens qu'il est un peu plus incertain. Maintenant, je suis pas sûr, en tout cas, c'est mon avis, que de faire un, deux ou trois matchs sur le banc, c'est ce qui le rassure et lui permet de redevenir meilleur. Je suis pas de cet avis-là. Et on pourrait parler des gardiens du PSG. C'est la même chose.
Ah, ça, on l'a fait hier. Ça a enflammé voilà. l'émission.
Moi, je pense que, à Paris, justement, il risque d'être sollicité. C'est peut-être le genre de match où tu t'attends, même si t'en prends un ou deux, où tu risques de faire des arrêts aussi. Et, non. Bon. Pour moi, il a beaucoup de crédit, Rouli. Et, même si Delange est un bon gardien. Je lâcherai pas Rouli comme ça, en fait.
Ok, on lancera ce choc demain.
Justement, la Rouli, comment ça se fait qu'il est aussi, c'est catastrophique, il fait des choses.
Tu sais, Christophe, je pense qu'il a quand même tenu le navire pendant un certain temps. Sûr. Il a jamais été, il a jamais subi certaines situations chaudes de l'OM. Il a toujours assumé, toujours été performant. Et à un moment donné, je pense qu'il peut craquer un petit peu. Il peut subir, vivre un peu le contre-coup de tout ce qui se passe. Mais quoi qu'il arrive, je trouve qu'il aura mis du temps à subir les choses quand même. Il aurait été solide quand même.
Dans un instant, on remercie Laurent qui est venu au 32-16. Dans un instant, on va continuer de parler de l'OM, mais faire un procès intéressant, parce que vous avez tous un avis, forcément, vous qui nous écoutez. Jean-Pierre a un avis, également Benoît a un avis, et puis Duga aussi. Le procès de tous ceux qui pensent que ces fameuses réunions club-supporters sont utiles. Les Marseillais en ont parlé hier, De Zerbi est pour. Aubameyang a dit que ça avait apporté des choses. Eh bien, on fait le point dans un instant. Ne bougez pas, Rotem sans flamme, jusqu'à 20h sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
18h31 sur RMC, Rotten sans flamme jusqu'à 20h avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil, avec Jean-Pierre Papin. Ce soir, on embrasse Jérôme Rotten qui sera de retour dès demain. Dans un quart d'heure, les gars, allô Jérôme. On va recevoir Jimmy Cabot, l'ancien Lensois, qui a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de connaître votre avis d'ailleurs sur ces jeunes joueurs, ces jeunes talents français qui partent s'exiler en Arabie Saoudite à 18, 19 ou 20 ans. Ça va parler à Ben Costil parce que c'est un jeune Rennais qui est parti Kader Meïté à Al Hilal. On pourra en parler
le cœur.
Avec lui. Bah, j'imagine, oui, c'est sûr. Ouais. Bon, Rennes a récupéré 100 millions d'euros dans l'histoire, mais bon.
Elle est belle, hein. Et t'en fais quoi des 100 millions?
C'est ça la vraie question. T'as bien raison. Et puis à 19h, on reparlera de l'arbitrage vidéo parce que ça a fait polémique hier. Il n'y avait pas de vidéo en Coupe de France. Est-ce que c'est devenu indispensable? On vous attend au 32-16. Mais tout de suite, justement, on parle des relations entre clubs et supporters.
RMC, Rotten sans flamme.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Le procès de Rotten sans flamme.
Sacré Thierry Henry. Alors, est-ce que les supporters de l'OM ont eu une influence sur le match d'hier soir et la qualif de l'OM? Je vous rappelle que lundi, il y a eu ce rendez-vous à la commanderie entre le club et les leaders de groupe de supporters. Un échange plutôt calme qui a duré une heure et demie. Ce sont les infos de Florent Germain. Léo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou encore Timothy Weah ont pris la parole devant les supporters, Roberto De Zerbi également. Et hier soir, après la qualif, Aubameyang a réagi au micro de certains médias. Il a dit « C'était bien pour certains qui découvrent le club de rencontrer les supporters pour comprendre comment fonctionne cette ville, Marseille tout simplement. Hier, en se rendant compte que les gens viennent au stade et que certains galèrent, c'est la réalité de la chose. On a beaucoup parlé, même après la réunion, ça a fait du bien à tout le monde. » Ce soir, on ouvre le procès de tous ceux qui pensent que ces fameuses réunions club-supporters sont utiles avec deux procureurs. Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Et Benoît Costil, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de ces réunions, de tous ceux qui pensent que c'est bien, c'est Jean-Pierre Papin. Bonsoir, maître.
Bonsoir, monsieur.
Et un fidèle supporter de l'OM va rendre son verdict au 32-16. C'est Mousse qui nous rejoint. Salut, Mousse.
Oui, bonsoir à tous.
Ah, bienvenue, bonsoir, Mousse. Bonsoir. Ravi de te retrouver.
Merci.
Bon, j'espère que tu vas bien écouter les plaidoiries et tu rendras un verdict impartial. Ok, Mousse?
Il n'y a pas de problème.
Allez, c'est parti. Allons-y pour ce procès. Christophe, qu'est-ce que tu reproches alors à ces fameux échanges entre clubs et groupes de supporters?
Alors, L'idée paraît bonne. Voilà, l'idée quand elle est donnée comme ça, voilà, les acteurs du foot vont se retrouver, d'un même club, les mêmes passionnés, les acteurs, ceux qui supportent, la direction, tout ça. Je trouve que l'idée au départ, elle est plutôt intéressante. Après, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ça ne reste jamais courtois. C'est-à-dire que ça se transforme en coup de pression. Voilà, je l'ai connu à Marseille. J'ai eu affaire à cet épisode-là qui a plus que débordé. C'est plus que devenu un coup de pression parce que c'est devenu des menaces et tout ce qui va avec. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Après, s'il faut attendre cette réunion de maintenant, quand les choses se sont cassées la figure, pour que les joueurs comprennent enfin que ce que c'est que l'OM, eh bien, je trouve ça peut-être encore pire que tout le reste, parce que le plus dur, enfin la catastrophe est passée. Alors là, moi j'ai pas de, ça serait encore pire. Tu me diras s'ils gagnent pas la Coupe de France et s'ils sont pas trois au troisième en championnat, mais je l'imagine même pas une seule seconde. C'est-à-dire que si c'était ça, ça serait encore pire que tout ce que je peux imaginer. Donc pour moi, la catastrophe, elle a déjà eu lieu. Il aurait peut-être fallu le faire avant. Moi, ce qui me dérange dans ces trucs-là, c'est que ce n'est jamais bon enfant et ça ne peut pas être bon enfant. Ça ne peut pas être bon enfant parce que tu te retrouves avec des joueurs et un entraîneur qui font un mea culpa. Est-ce qu'ils le pensent? Est-ce qu'ils le pensent pas? Ou est-ce qu'ils le disent juste pour avoir la tranquillité des supporters? Est-ce que c'est pas une manipulation des dirigeants qui en ont marre de se faire taper dessus, justement, alors qu'ils sont présents, mais qui préfèrent exposer les joueurs et que les joueurs se fassent taper dessus? Parce qu'à un moment ou un autre, peut-être qu'eux aussi, ils savent plus quoi dire, ils savent plus comment faire bouger leur groupe, ils savent plus comment mettre, entre guillemets, la pression sur leurs joueurs ou leur entraîneur d'ailleurs, parce que c'est plutôt souvent la faute des joueurs que de l'entraîneur d'après les dirigeants. Donc, moi, je le comprends très bien, mais voilà, j'aime pas l'idée parce que je trouve que quand c'est fait comme ça, ça manque de sincérité. Voilà, je trouve que c'est fait pour satisfaire les uns les autres, mais à demi mot, c'est pas sincère. C'est en gros, c'est voilà, je
c'est un peu forcé, quoi.
J'y vais, ouais. Mais en gros, j'en ai rien à foutre. Voilà, ouais. En gros, ça changera pas grand chose. Voilà, je trouve que c'est trop forcé. Ça part pas d'un sentiment dans une situation qui doit l'être dès le départ. La rencontre, moi, elle est légitime, mais pas dans ces conditions-là.
Ok. Voilà,
j'aime pas ça.
Benoît, qu'est-ce que t'as à rajouter? Toi, t'es un peu du même avis que du gars. Hein.
Totalement du même avis que Christophe. Je pars du principe où chacun son rôle, en fait. Les joueurs jouent, le coach, le président préside, les supporters supportent, et ce qui n'empêche pas de respecter les uns les autres dans leur rôle. Je trouve que c'est aussi une manière parfois de faire entrer, de donner plus d'importance en fait aux supporters dans la vie du club. Et je trouve ça un peu dangereux. Je pense que tu peux avoir des dérives par la suite qui deviennent parfois difficiles à contrôler. Donc je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est ce que je pense. Ouais. Je rejoins Christophe, où il y a l'aspect émotionnel, les supporters et respect à eux, parfois vont laisser parler leurs émotions, ils peuvent aller loin dans leurs mots. Donc tout dépend de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est dit. Souvent quand tu fais ça, c'est que la situation elle est déjà borderline. C'est là où ça peut être compliqué. J'en ai connu une notamment qui m'avait marqué en Italie à Salerne avant un match contre la Lazio. C'était vraiment chaud, ça en venait au front tête contre tête avec les joueurs. C'était vraiment dangereux. Donc je dis pas que ça s'est passé comme ça, mais ça doit être vraiment bien cadré. Mais je pars quand même sur mes premiers mots où tout le monde doit rester à sa place, ce qui n'empêche pas le respect des uns et des autres en fonction de leur rôle.
Jean-Pierre, tu l'as connu à Marseille, donc tu es avocat. Toi, tu penses que c'est une bonne idée, ça peut être une bonne idée de renouer le dialogue comme ça entre les clubs et les supporters sur des réunions organisées?
Moi, je pense que justement, ces réunions, elles sont faites pour... pas pour renouer, parce que ça n'a jamais été coupé. Le problème, c'est que... alors, si on parle que de Marseille, dans cette ville, tout va en haut, tout va en bas très vite. Donc, quelquefois... on s'aperçoit que les supporters sont pas contents, on le voit par rapport aux banderoles, etc. Et moi, je pense que ça, c'est constructif, en fait. C'est renouer un dialogue qui a pas spécialement été très correct, ou mal vu, ou mal raconté. Et moi, je pense que les supporters, quelquefois, ont besoin d'avoir quelques informations qu'ils n'ont pas, qui n'ont pas été divulguées. Donc, ils préfèrent peut-être aller voir la direction, voir comment ça se passe, voir quelques joueurs, pour leur expliquer que eux, ils fonctionnent de telle manière. Moi, je pense que c'est constructif. Après, c'est vrai que quelquefois, c'est
ça apaise plus que constructif, toi. Non, j'ai l'impression sur ce que tu dis, Jean-Pierre, non.
Oui, mais ça apaise. Mais ça apaise. Mais peut-être c'est ce qu'on veut que ça apaise. On veut que ça apaise.
Les supporters,
on veut essayer que ça reparte.
Plus que c'est constructif, ça apaise plus.
Oui, mais on veut que ça reparte pour pas que ça parte en saucisse, quoi. C'est ça le.
Le but de lundi, c'était d'avoir une ambiance assez détendue au Vélodrome, entre guillemets, quoi, et pas mettre les joueurs encore plus sous pression. J'imagine.
Ouais, mais je pense qu'il y avait les bandes. Drôle, quoi qu'il arrive, même si t'as pas les joueurs sous pression, etc. Quand tu rentres sur le terrain, quand tu vois les banderoles, sincèrement, t'es pas bien dans tes baskets. Donc les banderoles, elles ont été enlevées très vite, ils ont marqué. En plus, bon, ça a changé peut-être certainement la donne. Mais moi, je pense que ces réunions, elles sont faites aussi pour avertir que attention, si on n'est pas meilleur, etc. Même si je suis d'accord avec Benoît sur le fait que le président préside, les joueurs jouent et les supporters supportent. Mais je pense que quelquefois, c'est bien d'avoir un lien.
Et ça finit par des menaces.
Non, mais c'est bien d'avoir un lien social entre tout le monde. Voilà.
Bon.
Mais Jean-Pierre, tu penses pas que quand un joueur arrive, par exemple au club, justement, de faire une rencontre avec les supporters, ça serait plus pertinent que d'attendre qu'il y ait une situation de crise.
Tu sais,
etc.
Moi, il y a une chose qui me dégoûte. C'est pour la... Moi, il y a une chose qui me dégoûte.
Juste pour s'imprégner du club.
C'est quand je vais voir, quand je vois ces joueurs qui vont voir après qu'ils ont perdu un match,
devant la tribune.
Devant la tribune. Moi, ça, écoute-moi.
Ah, bah là, vous êtes tous d'accord. Ouais.
Moi, je pense que j'y serais jamais allé.
Allez écouter le capot qui vous insulte.
Mais ça, c'est une nouvelle mode, Jean-Pierre.
J'y serais jamais allé parce que j'y serais jamais allé dans la mesure où. On fait pas esprit quoi qu'il arrive de perdre. On n'est pas bon, on n'est pas bon, mais on va pas les excuser parce qu'on n'est pas bon. Moi ça, je suis pas d'accord, tu vois. Mais autant les supporters, les réunions, ça me. Je dirais que c'est pas que ça me plaît, mais moi je trouve ça utile.
À Bordeaux.
Eh ouais, mais c'est dur. Oh. Des fois, sans déconner, tu es le premier frustré, énervé, fâché contre toi. T'as un sentiment de honte qui est terrible. Et tu vas le prendre une soufflante par un jeune. Ça se trouve, il a 15 ans devant toi.
Du gars, si t'avais été dans un virage, t'aurais insulté Benoît, tu lui aurais demandé de venir s'expliquer.
Toi, il t'insulte, et toi, tu l'applaudis. Il est obligé de corriger.
Jamais
de la vie.
Jamais.
C'est facile de taper sur les gardiens. Oh là là. Allez, les verdicts de mousse.
J'ai bon dos quand même. J'ai bon dos.
Exactement. Surtout avec un attaquant aussi maladroit que moi, surtout. C'est encore plus facile.
Bon, Mousse, qui remporte ce procès alors, Christophe Dugarry et Benoît Costil ou Jean-Pierre Papin?
Écoutez, moi je suis très très partagé, mais je donnerai un petit avantage à Jean-Pierre Papin.
Ok.
Alors, moi,
j'aime bien cet accent.
Moi.
J'aime bien cet accent.
Ah bah oui, Mousse.
Encore pas mieux. Encore pas mieux l'avantage.
donc moi, je vais vous dire, la réunion, elle a été à la demande des supporters. Déjà, ça qu'il faut que vous le sachiez. Mm-hmm. Et bon, pour moi, ça sert à plus rien. Hein. Arriver à cette époque, à un moment donné de la saison, moi, pour moi, ça sert à plus rien. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que quand il y avait Pape Diouf président, et qu'il avait fait signer Deschamps, il avait fait une réunion avec tous les supporters, et j'ai assisté, avec les groupes, hein, pas tous les... Et j'ai assisté, et il y avait Gabi Enze, il y avait... Et tous les joueurs étaient au courant du contexte marseillais. Aujourd'hui, j'ai pas cette impression. Aubameyang, il est bien gentil, il a assisté à la réunion, mais j'ai pas l'impression que ce mec, quand il finit les matchs, il s'est vidé complètement. Donc, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Bon, Mehdi Benatia, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais moi, aujourd'hui, si vous recrutez des mecs qui n'ont pas un mental et s'ils ne sont pas préparés à être dans le contexte marseillais, parce que c'est vraiment particulier, allez jouer ailleurs, allez jouer à Guingamp, allez jouer à Sedan, ou je sais pas. Mais ne venez pas à Marseille. Non, voilà. Mais après, moi, j'ai assisté à des scènes. J'étais à Saint-Etienne quand du gars, vous n'êtes pas rentré le soir même. Oula. Parce que vous nous avez bandé la première mi-temps que vous avez faite, vous en aviez rien à branler. Et à un moment donné, les supporters, il faut les respecter. Les mecs, ils ont fait 8 heures de bus pour aller à Bruges. Plus de 8 heures de bus. Et vous croyez que ils ont respecté les joueurs? Pas du tout. Bon. Donc, à un moment donné, voilà, remettez-vous en question les
voilà.
joueurs.
Surtout vous, monsieur Dugarry. Bravo, Mousse. Merci, Mousse. Bravo, Victoire Mousse. De Jean-Pierre okay, Papin. Victoire de Jean-Pierre Papin dans ce procès.
Et à l'époque de Papin, on n'y courait pas après, parce que tout le monde se bougeait le cul sur le terrain. Bon, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà.
Bon, merci
bonne
Mousse.
Bonne soirée à tout le monde.
Salut Mousse.
Ciao. Fais venir Mousse. Ciao.
Mousse, je lui ai bien dit, sois objectif. Que... j'ai dit au début.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est souvent la vie d'un supporter quand tu.
C'est pour ça que tu n'auras jamais d'accord.
Que toi, quand tu es sur le. Ouais, on ne sera jamais d'accord.
Et puis, c'est cette impression que le joueur ne fait pas tout pour gagner, alors que vous, ça doit être une frustration terrible quand tu as envie, tu n'es pas bon, tu te rates et en plus, tu te fais engueuler par le supporter. Non,
ouais, même là, Aubameyang, tu te rends compte qu'il prend le seul exemple du mec qui se défonce peut-être.
Le mec qui est revenu à 36 ans.
Jamais d'accord, mais il s'est battu quand même, c'est tout.
Ah, bravo Jean-Pierre, t'as été énorme. Là, c'est la légende.
En fait, tu vois, je veux dire, c'est pour ça que ces réunions, elles sont là. C'est que les supporters, à un moment, comme il a réagi exactement de la même manière, ils ont besoin de les faire passer au-dessus.
Bon.
Et malheureusement, je pense que c'est le seul moyen de les faire passer au-dessus.
Bon, n'en fais pas trop, Jean-Pierre, parce qu'on va inverser le verdict, sinon. Allez, merci. Dans un instant, on accueille Jimmy Cabot. On parle justement de ces jeunes joueurs français, les jeunes talents qui filent en Arabie Saoudite. Ça le rend fou. On a hâte d'avoir votre avis, Christophe, Benoît et Jean-Pierre. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
18h49 sur RMC, Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil, avec Jean-Pierre Papin. À 19h, Rotten se chauffe. Est-ce que l'arbitrage vidéo est plutôt devenu indispensable après ce qui s'est passé hier en Coupe de France? Il n'y avait pas la vidéo entre Marseille et Rennes. On aurait pu assister à un carton rouge pour l'OM qui n'a pas été donné sur la faute de Camara. On parlera de tout ça donc à partir de 19h. Mais tout de suite, c'est le rendez-vous habituel à 18h45, c'est le Allo Jérôme.
RMC, Rotten sans flamme.
Ah, Barthélemy de bien centré. C'est centré pied gauche, la reprise de Cabot et Lorient qui mène 1-0. Le premier cette saison pour Jimmy Cabot pour sa première titularisation.
Allô Jérôme.
Jimmy Cabot, ancien joueur notamment du RC Lens, est en direct dans Rotten sans flamme. Salut Jimmy.
Salut, bonsoir.
Merci d'être là. C'est pas ta première dans Rotten sans flamme. On te rappelle parce que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Voilà, quand il y a un sujet qui te dérange, t'hésite pas à le faire savoir dans une émission ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé notamment sur ces choix donc des jeunes joueurs français d'aller partir jouer en Arabie Saoudite. On a pris l'exemple donc de Kader Meïté. On en parlait avec Ben Costi il y a quelques minutes. 18 ans, formé à Rennes et donc vendu à Al Hilal pour 30 millions d'euros. Il a fait 17 matchs avec Rennes cette saison, il a marqué 3 fois. Il rejoint le leader du championnat saoudien, le nouveau club d'ailleurs de Karim Benzema. Donc il va s'entraîner avec Karim Benzema, il va être coaché par Simone Inzaghi. Et toi, voir les joueurs partir aussitôt en Arabie Saoudite, ça te pose problème. Tu as du mal à comprendre ces choix de carrière.
Oui, alors moi j'estime qu'il y a différents paramètres à prendre en compte. Évidemment, quand on voit les réponses, il y a aucun joueur à accabler. Évidemment que c'est compliqué de refuser 1 million sur une courte période pour n'importe qui et peu importe la situation. Donc ça, c'est déjà un paramètre à prendre en compte. Ensuite, il y a l'âge. Moi, ce que je comprends pas et l'axe de mon tweet, c'est que nous, forcément, avec le recul, quand t'as eu une carrière ou quand t'as un peu plus de réflexion là-dessus et sur ce qui pourrait arriver derrière, quand t'as un peu plus de visibilité, je dirais, sur la direction de prendre ta carrière, ok, t'as le recul pour dire, là, je vais peut-être prendre cet argent parce que si, parce que là. Mais à 17-18 ans, normalement, t'es passionné, tu bouffes du foot depuis que t'as 13-14 ans en centre de formation. Je trouve ça assez triste d'arriver à ton apogée, dans le sens, pas à ton prime, mais dans le sens où ça y est, t'es à l'aube de ta carrière, de tout ce que t'as toujours voulu rêver, accéder au grand club, de ce qui fait l'essence de pourquoi on fait du foot, et tu te barres en Arabie Saoudite, quoi. Donc je comprends que c'est dur à refuser par rapport aux contrats qui sont proposés, mais je trouve que c'est peut-être un peu trop romantique ou un peu trop de l'ancienne école. C'est comme avant, je sais pas, on admirait que Francesco Totti passe 20 ans à l'AS Rome. C'est un peu le même fond, c'est un peu romantique, mais je trouve ça triste qu'aujourd'hui nos jeunes en 14 ans, un centre de formation, je sais pas, on va coacher et tu suis un Kader Meïté de qui tu pourrais prendre exemple parce que t'es content d'aller au Razan Park le voir jouer comme début, de voir ses débuts en professionnel, et tu vois qu'il part aux Émirats Arabes Unis, donc c'est l'exemple qu'on est censé nous donner. Après, on a plus cette optique de faire une belle carrière, et j'insiste bien sur le fait que on parle de nos meilleurs talents français,
bien sûr,
des mecs qui
T'as raison, c'est pas un cas isolé, hein. Il est international espoir. Il a refusé l'offre de prolongation de Rennes pour aller s'engager avec Al Hilal. Et il y a eu d'autres joueurs avant lui qui sont partis, hein, l'été dernier. Nathan Zézé, Simon Boisbré, Valentin Atangana. Comment vous réagissez, vous, les gars, du gars? Est-ce que tu comprends le choix de carrière à 18 ans pour Kader Meïté d'aller jouer en Arabie Saoudite?
Pas du tout.
Pas du tout, non. Mais moi, ça me m'attriste profondément. Après, s'il faut appeler un chat, ces gars, quand ils partent là-bas, ils partent pour l'argent. Mais après, il faut l'assumer aussi, ce choix. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer de faire croire que ces gamins-là aiment le foot. Ils ont perdu leur rêve de footballeur. Quand tu acceptes ça, je dis pas que tu pourras pas le retrouver, puisqu'après les choses peuvent évoluer et rien n'est jamais définitif. Mais c'est clair, net et précis. Quand tu choisis ce genre de club, tu choisis l'argent. Tu ne choisis pas le côté sportif. Tu vas faire des matchs, tu vas jouer contre Pierre, Paul, Jacques, tu vas jouer dans l'équipe avec, t'entraîner avec Benzema. Tu vois, non, mais ça c'est des conneries. Quand t'as des objectifs, des rêves de jeunes footballeurs, c'est de jouer dans les meilleures équipes européennes, c'est de jouer dans les sélections, c'est de jouer contre les meilleurs. Et là-bas, t'iras pas jouer contre les meilleurs. C'est absolument faux. Donc oui, ça fait beaucoup de peine. Moi, je comprends pas l'idée. Je sincèrement, elle me dépasse totalement.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Jean-Pierre, comment tu vois ça, toi qui as coaché encore des équipes de jeunes, notamment à l'OM la saison dernière?
En fait, pour eux, c'est arrivé très vite avec des gros salaires. Parce que, comme dit Dugas, moi, je pense que il n'y a pas de projection sur une grande carrière. On veut gagner un maximum très vite. Je dirais que la carrière, on se la met un peu de côté. Moi, j'ai coaché des jeunes, mais je pense que leur envie première, c'était d'essayer de jouer dans le club de leur cœur, c'est-à-dire l'OM, puisque c'était à l'OM. Mais quand ils voient que rapidement la porte se ferme, très vite, ils essaient de trouver une porte de sortie. Alors, il y en a qui ont les portes de sortie pro, il y en a qui est anti régional, il y en a qui sont en national, puis il y a quelques-uns qui éventuellement peuvent se permettre d'aller à l'étranger, et je peux te dire qu'ils y vont direct, ils cherchent même pas à comprendre.
Benoît, c'est particulier pour toi en plus parce que tu es très attaché au Stade Rennais, donc quand tu vois un espoir du club quitter le Stade Rennais, ça te fait mal au cœur?
Ça m'agace un petit peu. Ça m'agace un petit peu parce que, mais c'est le problème de Meïté, enfin, et d'autres joueurs. C'est qu'aujourd'hui, déjà, les supporters n'ont plus le temps de s'attacher aux jeunes de l'académie parce qu'ils savent très bien qu'au bout d'un an ou deux, ils sont partis. Mais je dirais que sur le sujet des jeunes, c'est un souci générationnel. C'est que le plan de carrière, il est différent à l'époque, je pense. Et je ne dis pas qu'avant, c'était mieux. Je ne vais pas faire le vieux con. Mais tu voulais réussir dans ton club formateur. Tu voulais prouver dans ton club formateur. Et après, y aller petit à petit. Aujourd'hui, tu as aussi un environnement autour des joueurs qui est totalement différent. Le jeune, oui, l'argent peut faire tourner la tête. Mais il y a tout un entourage aussi. Alors, j'ai envie de leur en vouloir. Mais en même temps, ils mettent à l'abri toute une famille, etc., etc., etc. Mais voilà, je trouve quand même que je peux pas cautionner à 100%.
Mais moi, fait chier, me dérange aussi dans la nouvelle vision des choses, c'est les clubs aussi. Je l'ai vu avec l'OM. À un moment ou un autre, j'ai l'impression que les clubs ont aussi perdu l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est aussi d'amener ces jeunes-là à maturité et de les faire jouer dans ton équipe première. Il y a beaucoup clubs aujourd'hui qui pensent à une chose, ils se disent, bon, attends, lui, il est en fin de contrat dans 2 ans et demi, donc il faut commencer à négocier. S'il négocie pas, on le fait partir.
Enfin, là, c'est ce qui s'est passé, du gars. Là, c'est lui qui a refusé l'offre de prolongation. Hein, il a fait jouer.
C'est pour ça que je pense par Marseille. Tu vois, ce qui s'est passé avec Marseille. Ouais. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que les clubs, moi, quand j'ai commencé à jouer à 17 ans, le club espérait qu'une chose, c'est de me voir jouer au plus haut niveau, régulièrement. Être titulaire, incorporer l'équipe de France, et ce club avait une obligation de t'accompagner et avait aussi le choix et l'envie de t'accompagner. Aujourd'hui, le club, il te prend aussi pour une monnaie d'échange. C'est-à-dire que tu as 2 ans, 2 ans et demi de la fin de ton contrat, ils réfléchissent déjà à te mettre sous pression pour que tu puisses accepter la prolongation. Si tu la prolonges, si tu acceptes pas, et bien ils te font plus jouer. Non, mais comment tu peux déjà, un gamin de 18 ans, parce qu'il a refusé la prolongation, de partir avec l'idée que tu le feras plus jouer, que tu vas le mettre au placard? Mais tu perds l'essence même de ce pourquoi tu as investi, tu as choisi ce jeune. C'est aussi le rôle d'un club d'avoir ce discours-là, de l'accompagner jusqu'au plus haut niveau. Moi, il y a aussi quelque chose au niveau des clubs qui me...
Comment ? Ils veulent pas être accompagnés. Ils prennent des décisions tout seuls. Ils ont les agents. Ils ont même plusieurs. Et ça, c'est une catastrophe.
Mais Jean-Pierre, tu le sais mieux que moi. Mais regarde, à l'époque, on avait quoi ? Un agent et nos parents qui étaient un peu à côté, mais en retrait. Aujourd'hui, c'est des structures mais immenses. Ils sont 10 autour des
joueurs. Excuse-moi. Mais Jean-Pierre, quand il y a Vaz qui a 2 ans et demi de contrat, tu penses pas que t'as la chance d'avoir un joueur qui a 2 ans et demi de contrat. T'es quand même pas obligé de le mettre au placard dès maintenant.
Entre moi, je l'ai eu. moi, je sais de quoi tu parles.
Je l'ai vu qu'on l'accompagnait.
Du gars, quand il te demande trois fois de multiplier son salaire par 10, est-ce que tu cèdes au joueur ou est-ce que tu te dis, bah, finalement, on va le vendre parce qu'on est
trop dans l'occurrence. Tu cèdes pas au joueur, tu lui donnes 10 000 euros par mois, il gagne 10 000 euros par mois, tu cèdes pas au joueur, mais tu peux le faire jouer quand même.
Oui, mais après peut-être que c'est l'entourage du joueur qui dit bah faut qu'on s'en aille et qui cherche aussi des portes de sortie. Et tu vois,
les gars, moi aussi il y a un truc, je suis assez d'accord avec Benoît quand il dit que c'est aussi un problème de génération. La réalité aussi en termes d'époque, c'est qu'ils sont les jeunes d'aujourd'hui sont pas influencés par les mêmes choses que nous. Même moi qui il y a 10 ans, ou je sais pas Benoît ou les plus anciens, il y a moins d'attache. Même les top clubs, les top joueurs sont beaucoup moins idéalisés qu'à notre époque. Du coup, il y a moins cette recherche même d'aller dans les top clubs. J'ai l'impression que les gens... Christophe parlait de l'amour du football. C'est aussi ça. Il y a moins ce désir. Moi, je me mets à la place de Meite. Je joue au Stade Rennais à 17-18 ans. Ouais. Bah, je veux aller chercher mon contrat, je sais pas, à l'OM, à Liverpool, j'en sais rien. Je dis pas que j'ai le potentiel, mais en tout cas, je vais tout donner pour y aller. Et si j'y vais pas, ce sera un regret. Et je trouve qu'il n'y a pas ça, dans la mentalité
Jimmy aujourd'hui. Merci d'être venu, hein, c'était sympa de t'avoir.
Merci à vous.
Salut, on te rappelle quand, et sur place quand tu veux.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le deal, parce qu'à un moment le deal, c'est que Rennes, ils prennent 100 millions d'euros quand même.
Oui, avec lui et Jacquet,
dans la conjoncture actuelle. Mais évidemment. Dans la conjoncture actuelle, c'est vachement important parce que ça met le club à l'abri pour quelques années.
Ouais, mais Benoît Costil va dire qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et ça, c'est un autre problème, parce que comment ils vont investir. C'est sûr. Allez, merci à Jimmy Cabot qui est venu dans Rotten sans flamme. Et dans un instant, Rotten se chauffe. Est-ce que l'arbitrage vidéo est devenu indispensable? Si vous êtes arbitre ou ancien arbitre, on vous attend vos témoignages au 32-16 après ce qui s'est passé hier entre Marseille et Rennes. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
C'est 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
19h03 sur RMC, Rotten sans flamme jusqu'à 20h avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Costil. Le grand retour de Jérôme Rotten demain à 18h sur RMC. Mais encore une grande heure qui vous attend avec d'excellents débats. Et le quiz à 19h45 ce soir, ce sera tous contre Dugas. J'espère que Dugas, t'es en forme pour bien le sûr. Quiz qui t'attend. Tu seras face à Jean-Pierre et face à Benoît. Une carte cadeau de 100 euros à valoir.
Je vais les piller les deux, tu vas voir ça.
Bah, j'imagine.
Chez Maison Scarlett, pour vous inscrire, 32-16, touche 4 au quiz par SMS au 732-16. À 19h30, la VAR de Rotten sans flamme. Est-ce que vous avez entendu, sinon vous l'entendrez à 19h30, donc, cette déclaration de Didier Deschamps hier, qui a fait une décla donc sur Kylian Mbappé.
Très intéressant.
Si vous voulez qu'il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas. Voilà, donc c'est à peu près le propos de Didier Deschamps sur son capitaine Kylian Mbappé. On en débattra donc à partir de 19h30. Mais tout de suite, l'assistance vidéo, bah finalement, on ne peut plus s'en passer.
J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité.
Gros tag de Noaneri sur Camara.
Qui va valoir un carton, je pense, hein. Parce que s'il décide.
Heureusement qu'il n'y a pas la VAR.
Oh là, si l'action, c'est rouge.
C'est haut, mais après, ça reste pas, ça glisse.
La VAR, si elle est bien utilisée, elle peut être sympa parce que ça ramène un esprit de justice quelque part.
Toi, ouais. Tu me dis, si ça engomme une, ça suffit.
C'est contré par les Italiens.
Il
siffle pas. Il siffle pas encore, monsieur Sanchez. Il attend.
C'est haut, mais après, ça reste pas, ça glisse.
On est dans un monde imparfait et on demande la perfection. Dans l'arbitrage, il n'y a pas de perfection. Malheureusement, ça reste une activité humaine.
Chaque fois qu'il y a un arbitrage, je l'ai dans le fion.
Alors, l'année dernière, il a pleuré et tout, j'en entends plus. Hein.
J'ai voulu le convoquer à 19h, il n'est pas venu, quoi. Incroyable. Ça a beaucoup fait réagir l'absence d'arbitrage vidéo hier soir entre Marseille et Rennes. Je vous rappelle à la 22e
comme
minute.
Comme quoi ça tourne. Hein.
Exactement. Le tacle de Nouaneri, la vilaine semelle sur Glenn Camara. Grosse entorse de la cheville pour lui. Intervention dangereuse. Carton jaune donné par monsieur l'arbitre. Et à ce niveau-là, la VAR aurait pu corriger la décision et aurait certainement donné un carton rouge à Nouaneri, mais finalement, il n'y a pas eu de VAR parce que vous le savez.
Pas sûr.
En Coupe de France, pas sûr. Il y a de fortes présomptions quand même.
Monaco Paris avec Chevalier.
Ouais, remarque, t'as raison. Ouais,
il aurait pu dire que ça avait glissé aussi, je sais pas, non?
Ouais, c'est vrai. La VAR en Coupe de France n'est appliquée qu'à partir des quarts de finale. Il y a eu une grosse colère d'Habib Bey hier. Je rappelle les raisons évoquées par la Fédération française de football hein, pour mettre en place la VAR seulement pour les quarts de finale. Et bien, d'un point de vue technique, les matchs peuvent se jouer dans des stades qui ne sont pas équipés ou qui n'ont parfois pas les conditions requises pour accueillir l'arbitrage vidéo. Et puis, ça représente un coût financier élevé. Je rappelle rappelle qu'en France, il n'y a que la Ligue 1 qui peut bénéficier de l'arbitrage vidéo. La VAR qui est d'ailleurs régulièrement critiquée depuis son introduction. Roten se chauffe ce soir. Est-ce que l'arbitrage vidéo est devenu indispensable? 32-16 pour faire le débat avec nous, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Costil et avec Christophe Dugarry, grand défenseur de l'arbitrage vidéo. Eh ben, ça t'a confirmé, ça t'a conforté dans tes positions hier, Dugas, ce qui s'est passé.
Ah ben oui, bien évidemment, il y a eu d'injustice d'un côté comme de l'autre. Alors il y a cette première injustice qui aurait pu changer beaucoup de choses, mais il y en a d'autres par la suite. Il y a peut-être aussi un penalty pour les Marseillais avec un défenseur qui attrape le maillot, c'était ouais, de Paxiao également. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure des façons pour montrer et démontrer que cette VAR, elle est essentielle quand tu vois un match comme ça sans vidéo et ça te rappelle un petit peu toutes les injustices que tu pouvais avoir ou découvrir. Est-ce que t'en veux à l'arbitre de pas l'avoir vu? Oui, forcément, il pourrait être un petit peu plus présent. Après, ça montre aussi et ça démontre que ceux qui m'expliquaient et qui ont comme argument que ça enlève de la sensibilité ou ça c'est trop long ou le plaisir du but à l'instant T, on l'a plus. Ça prouve que ça change absolument rien et que cette injustice après le match, tu l'as encore en travers. Regardez Abibay, ça l'a sorti du match. Cette injustice. Tout le match, il a été énervé, il a été agacé. Alors que si dès le départ, il y avait eu la vidéo et l'arbitre qui se serait déplacé pour voir, peut-être qu'il n'aurait pas mis rouge, mais au moins il se serait déplacé et ça aurait apaisé les choses et ça aurait mis les choses d'une manière différente. Ça aurait présenté surtout la situation et cette action-là de manière différente. Et alors que là, on reste sur une espèce de non-dit. Tout le monde se cache, on ferme les yeux, pas vu, pas pris. L'arbitre, bon, pas bon, au niveau, pas au niveau, on sait pas. On se cache les yeux, on se met la tête un peu comme on fait l'autruche, tu vois. On fait l'autruche, on dit bon, ben c'est pas grave, il y a eu des fautes, on a l'habitude, ça fait partie du football. Ben non, mais moi je trouve que l'idée, dès le départ de la VAR qui a été installée, qui n'a jamais dit que c'était pour gommer toutes les erreurs d'arbitrage, il y en aura toujours, même avec la VAR, parce que ça reste de l'interprétation. Mais je trouve quand même que ça gomme une bonne partie des injustices que l'on a pu voir jusqu'à présent, mais il y en aura toujours, effectivement. Voilà.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Pierre?
Alors, on va toujours relancer le même débat. Est-ce que la VAR est prépondérante ou est-ce que la VAR n'est pas prépondérante? Quand tu vois l'action, bien évidemment, quand t'es rené, ben tu t'aperçois que t'es lésé parce que les personnes qui prennent décision. Alors moi, je suis sûr que par contre, l'arbitre s'il va voir la VAR, il met un carton rouge.
Il met le rouge.
Parce que ben, ça, c'est sûr et certain. Après, c'est toujours le même débat depuis le départ. C'est est-ce que on aime le foot, on aimait le foot quand il y avait pas la VAR, on aime le foot quand il y a la VAR. Moi aujourd'hui, ça me dérange un peu la VAR.
Tu l'as plus aimé hier le foot sans la VAR. T'as eu ce sentiment-là, tu dis ah ouais, ça c'est mon vrai foot ça.
Non, mais parce que on est tellement maintenant habitué à avoir la VAR que hier ça nous a manqué qu'il n'y ait pas la VAR par rapport à la faute grossière qu'il y a eu. Mais la vraie question, c'est est-ce que la VAR maintenant elle va continuer à exister de cette manière-là, ou ça va un petit peu changer, ou ça va évoluer, ou ben on revient sans la VAR au foot qui était avant.
Tu veux dire alors que s'il n'y avait pas eu l'introduction, ben on aurait moins crié au scandale hier, c'est ça que tu veux dire, mais Jean-Pierre?
Ouais, moi je pense que si hier il y a la VAR, il y a pas de discussion. Si hier il y a la VAR, il y a carton rouge.
Ouais, mais hier on crie parce que le match ne bénéficie pas de l'arbitrage vidéo, alors qu'on a l'habitude que.
Mais
les
je pensais que l'arbitre, malgré tout, en allant voir la cheville du défenseur, allait les
pousser. Ça c'est autre chose. Il aurait pu d'ailleurs changer.
Mais oui, il aurait pu. Mais moi je pensais que c'est ce qui allait se passer. Ouais. Mais en fait, il a pas pris le risque. Et surtout, ce qui me déçoit un peu, c'est que il va voir Abibay à la fin pour lui dire, bah, excusez-moi, je me suis trompé, maintenant t'es éliminé, ça change rien, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, après coup, il sait qu'il a eu tort. Après coup, il sait qu'il a eu tort. Mais pourquoi il essaye pas de trouver la solution, au moment où il y a la faute, quoi? Parce qu'il a pas cherché à savoir s'il y avait vraiment faute. Voilà, il a laissé jouer. On est restés tous sur le même état en disant ouais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Et deux minutes après, le joueur est sorti et Rennes s'est fait éliminer. Voilà. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que la VAR, on la met tout le temps? qui est football amateur ou pas football amateur, parce que moi ça, je veux bien ce que tu veux, la Coupe de France, parce non, que non, football amateur c'est amateur, pas la même chose.
Ah mais comment tu veux faire après, c'est
je peux pas t'en sortir. Oui, non, mais si là c'est la compétition où il y a la VAR ou il y a pas la VAR.
Oui, ouais, mais alors après, là où je suis d'accord avec toi, là où c'est un faux débat, c'est que finalement on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'équipes amateurs qui arrivent à ce stade de la compétition, et en plus souvent quand il y a des amateurs, ils décident de jouer dans des grosses enceintes de Ligue 2 ou de Ligue 1 où là l'arbitrage vidéo est totalement applicable. Donc c'est vrai que c'est un problème qu'on pourrait évacuer.
Tous les stades adaptés.
Bah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benoît ?
Moi, je suis pour la VAR. S'il y a la VAR, au moins hier, le banc de touche rennais qui, à juste titre, est agacé. Ça va peut-être les atténuer un petit peu, peut-être. Mais ce qui me dérange plus, c'est qu'ils prennent tous les mêmes décisions, en fait. Hier, on se dit, il va mettre le rouge. Ouais, il va mettre le rouge. Pour nous, on dit, il va mettre le rouge. Mais à Monaco, il a permis le rouge sur ce chevalier.
Ouais.
Ouais, ce que je veux dire, ouais,
c'est très grave.
Qu'il soit d'accord en permanence. Pour moi, la VAR est un outil dont il faut pas se priver aujourd'hui. On a la chance de l'avoir, il faut l'utiliser. Mais par contre, il faut qu'on soit tous d'accord. À quel moment met le rouge.
Elle doit harmoniser les décisions, ça n'a pas été le cas.
Elle doit harmoniser les décisions, voilà, exactement. Oui. Et j'ai le sentiment quand même que quand la VAR est utilisée, que ce soit pour un hors-jeu ou quoi que ce soit, même si c'est pas forcément juste, sur le temps du match, sur les 95 minutes, ça va atténuer les esprits. Et qu'après, oui, il peut y avoir des réactions. Mais au moins, le jeu permet de se dérouler.
Ce qui m'agace un peu sur la VAR, pour tout te dire, c'est que maintenant, on les connaît, les problèmes de la VAR, on les connaît, les défauts de la VAR, justement. Maintenant, ça a été montré, démontré au moins. Et j'ai pas l'impression que les choses bougent vraiment pour les améliorer. J'ai pas l'impression que, tu vois, on adapte, par exemple, certaines règles, notamment la main, ou certaines situations pour...
Il faudrait simplifier les règles pour renforcer l'utilisation de la VAR.
Exactement. L'utilisation de la VAR, et maintenant il faut s'en servir. Maintenant qu'elle est là, on ne retournera pas en arrière. Donc c'est presque le centre des choses, la VAR. Donc il faut améliorer les choses pour qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'interprétation de la part de l'arbitre et avoir quelque chose de plus chirurgical avec la VAR ou même le hors-jeu, peut-être éventuellement, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a des choses à améliorer. Et là, je trouve que les instances, elles ont du mal à améliorer les choses avec cette présence de la VAR. On est toujours dans une espèce d'entre-deux avec ces décisions qui sont pas harmonisées, avec il y a encore trop d'interprétations. La VAR, ça y est, elle a pris la place. Arrêtons d'essayer de faire croire que l'arbitre, les décisions de l'arbitre, oui, mais il y en aura peut-être de moins en moins, et c'est pas plus mal. Aujourd'hui, il y a l'IA qui existe. Ça peut être aussi, il y a peut-être possibilité d'améliorer les choses avec l'IA, avec la VAR. Je sais pas.
Alors c'est intéressant.
On cherche pas beaucoup de solutions.
Et évidemment, ça provoque beaucoup de réactions. On a énormément d'appels au 32-16. On a notamment un appel de Kevin Diaz, membre de l'After et de Génération After qui est avec nous au 32-16. Salut Kevin.
Salut messieurs.
Ravi de te retrouver Kevin. Évidemment tu es tout au long de la semaine sur RMC, notamment de 20h à 22h dans Génération After avec Walid Acharchour et Nicolas Jamin. Tu voulais réagir à notre débat parce que tu es en désaccord avec Dugas notamment.
Ah là, qu'est-ce que c'est dur d'être en désaccord avec Dugas. mais écoute, en ce moment ça m'arrive notamment sur des herbies et là sur la VAR. Parce qu'en fait, ce que vient de dire Diga, bien sûr, je l'entends, hein, je commente les matchs tous les week-ends sur RMC, mais le souci, c'est que là, on est sur un point qui est philosophique. Moi, hier, en fait, j'ai pris énormément de plaisir à commenter ce match. Parce que pour moi, le foot, il faut savoir quand même que 99% des matchs dans le monde se jouent sans l'arbitrage vidéo. Et pour la grande majorité, bah, ça se passe bien. Ah oui, on râle, mais on râle aussi avec la VAR, de toute façon. Mais de la Ligue 2 jusqu'à la 4e division de district, en France, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Et je crois pas qu'il y a beaucoup plus de critiques qu'en Ligue 1 ou pas. Donc hier, moi, je commente un match. En fait, quand le ballon rentre dans le but et que l'arbitre assistant court vers le milieu de terrain, on peut fêter. Il y a 60 000 personnes qui peuvent fêter. Il y a des commentateurs qui peuvent dire but. Et ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix de réduire quelconque erreur que ce soit. En fait, dans cette société, le problème, et dans le sport forcément, c'est qu'on n'accepte plus l'erreur. Oui, il a fait une erreur hier, l'arbitre. Et l'arbitre de Reims contre Le Mans, l'arbitre assistant a fait une erreur. Il y avait hors-jeu sur le deuxième but de Reims. Mais c'est pas très grave, en fait. Bah, des fois, dans la vie, on trébuche,
si
on
c'est
tombe.
Grave. Et bah,
on
si c'est là, le problème, bah, c'est que la justice, tu acceptes l'erreur et l'injustice.
J'accepte que, en fait, dans le football, il y a trois arbitres qui sont là pour juger avec un quatrième. Et que des fois, très très souvent, ils prennent la bonne décision, hein, de la Ligue 2 à la 4e division de district. Et puis, des fois, ils se trompent. Comme en Ligue 1, avec un outil qui est très onéreux, qui dénature complètement l'arbitrage de notre sport et où il y a autant d'erreurs. Il y a des erreurs, il y aura toujours des erreurs.
J'ai hâte de te voir te faire fourrer avec Saint-Maur en Coupe de France ou en championnat.
Et un jour, et alors
tu vas faire la bise aux arbitres. Et tu vas faire la bise aux arbitres, merci.
Je leur dis que moi, je suis pas d'accord avec eux, mais qu'ils ont un métier très difficile, et qu'aujourd'hui, dans tous les clubs amateurs, Saint-Maur y compris, on ne trouve plus d'arbitres.
C'est mazo, c'est ton problème, hein.
Mais non, c'est pas la question. C'est pas être mazo d'accepter les erreurs dans la vie. Et le problème, c'est que, à penser que l'arbitrage vidéo va tout régler, eh bien, aujourd'hui, plus personne ne veut faire arbitre. Parce que aujourd'hui, dans le monde amateur, on a le même débat que vous avez ce soir. C'est-à-dire, ah bah non, mais on peut plus jouer au foot sans arbitrage vidéo.
Et alors, tu penses que ça serait grave qu'un jour il n'y ait plus d'arbitre et que les décisions soient toutes justes? Tu penses que ça serait grave, ça?
Mais ce sera impossible, puisque le football est universel. Et c'est d'ailleurs pour ça que Platini ne voulait pas l'arbitrage vidéo pour les pros, puisqu'il savait que le football, c'est pas que les pros.
Il y aura toujours un arbitre.
Après, Kevin,
pourquoi tu dis qu'il n'y en aura plus?
Mais
aujourd'hui, c'est quand même plus facile.
Mais c'est factuel. Il n'y a plus d'arbitre.
Mais là où tu dis des bêtises, et ça n'arrivera jamais, personne n'acceptera les erreurs. Il n'y a que toi. Tu es le seul mec au monde qui adore se faire fourrer et qui adore les erreurs.
Mais c'est la question d'adorer.
Personne n'aime l'injustice quand tu t'entraînes tous les jours, quand tu es entraîneur, quand tu es directeur sportif, quand tu es président. Mais si, il y a une injustice. Il y a une injustice que tu peux améliorer. Je ne te dis pas que tu vas la gommer. Je te dis que tu peux l'améliorer.
Mais on le voit tous les week-ends, Kevin, ça a corrigé
des erreurs quand même. Et c'est une question d'enjeu. Là, t'es sur une Coupe de France, un huitième de finale. Il y a beaucoup d'enjeux quand même.
Est-ce que moi j'ai dit que ça n'a pas corrigé des erreurs?
Non.
Ça suffit, si elle en a corrigé une, ça suffit.
Ça a dénaturé la façon d'arbitrer.
Mais quand tu racontes que hier tu t'es régalé parce qu'il n'y avait pas la VAR, mais t'es pas crédible, Kevin. Tu sais que je t'adore, mais t'es pas crédible. Ton commentaire a été mieux. Hier, tu t'es régalé hier soir parce qu'il n'y avait pas la VAR. Mais là, à partir du moment où tu pars d'un argument comme ça, tu es désolé, mais t'es pas crédible.
C'est juste un football qui est arbitré par trois arbitres, en fait. Ça fait 60 ans que ça durait.
Ouais, joué par 11 joueurs, super.
Non, mais la question est bonne. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là on a notamment des anciens footballeurs pros qui ont joué sans le VAR. Est-ce que toi, Jean-Pierre, t'aurais aimé qu'à ton époque il y ait l'arbitrage vidéo dans tes matchs? Ou est-ce que t'as aimé jouer à ton
sur
époque
sur certains matchs? Oui,
ouais, j'imagine, oui.
Et Jean-Pierre, on t'aurait sûrement annulé, je pense, hein, je sais pas combien, mais une bonne cinquantaine de buts.
Au moins.
Factuellement, tu n'étais pas hors jeu parce qu'à ton époque et à mon époque, le football se jugeait à l'œil nu pour leur jeu, et c'est comme ça que la règle a été introduite dès le départ. Mais aujourd'hui, on est sur la même ligne que 50 de plus.
Ouais, j'aurais peut-être gagné Ligue des Champions en plus à Benfica, mais bon.
Ou pas, t'en sais rien.
Kevin, reste avec nous parce qu'il y a Amar, tiens, supporter de l'OM, qui a composé le 32-16 pour participer au débat. Salut Amar.
Bonjour tout le monde, bonjour Dugas, bonjour JPP, et j'espère que Kevin est là. Donc moi je suis. Salut, ça va être assez marrant parce que j'habite Bordeaux, je suis en train de passer ma VAE pour passer pour un diplôme que j'ai fait pendant 15 ans à Clamart. Et je suis pas d'accord avec Kevin et je suis assez d'accord avec Dugas, c'est-à-dire que moi hier je regarde le match en région parisienne avec des amis marseillais, je dis tout de suite qu'il y a rouge. On est content, on profite, parce que je pense que même quand.
Mais moi aussi, j'ai dit
Marseille a 11 contre 10. Mais le problème de ça, c'est que tu as parlé du foot amateur sur les erreurs d'arbitrage. Ouais. Dimanche, on mène 1-0. À la 16e minute, on a un autre gardien de foot qui sort en dehors de la surface avec sa main. D'accord? L'arbitrage lève la main, laisse passer, laisse l'avantage. L'avantage est consommé. L'attaquant tire sur un poteau extérieur. Donc l'avantage est consommé. L'arbitre ne respecte pas la loi 5 et la loi 12. On est dans du foot amateur pour une accession R3. Il revient au coup franc. On n'a plus de gardien. On prend le but là-dessus. On pose une réserve technique. On n'a pas de chance, nous, derrière. On sait que la réserve, elle a très peu de chances de passer, mais on appuiera dans tous les cas. Et moi, je veux dire que quand on a la VAR, c'est une chance et on doit l'utiliser. Et ma question, c'est si demain, on arrête de juger les arbitres sur la VAR, juste en leur disant, bah, OK, t'as pas fait de faute, t'as pas vu la faute, t'as fait appel à la VAR, t'as fait du bon travail. Et moi, je pense que le problème, il est là. C'est que l'arbitre, il doit être, à mon avis, je ne sais pas, et c'est là où je demande à Dugas, à JPP, est-ce qu'ils sont pas jugés? Est-ce qu'ils ont pas un système de notes? Plus tu fais appel à la VAR, moins t'as de bonnes notes. Ça, c'est ma vraie question. Parce que je pense que si c'était pas le cas, eh ben, la VAR, ça serait comme au rugby, et on aurait plus de problème. C'est un super outil. Et comme l'a dit JPP, j'aurais bien voulu qu'on gagne contre Benfica, moi aussi. Voilà. Ce que je disais pour répondre à Amar et pour terminer, c'est que quand je dis à Dugas qu'il n'y a plus d'arbitres en France, c'est factuel. Sûrement, le club amateur d'Amar doit être en manque d'arbitres, ou sinon, il a de la chance. Mais sinon, aujourd'hui, plus personne ne veut faire arbitre.
Parce
que
c'est
plus
vrai.
Personne... Mais le problème, ce n'est pas les arbitres. Le problème, c'est que les gens n'acceptent plus les erreurs. C'est ça le problème.
Mais que les gens, tu as raison.
Je ne dis pas que les décisions, des fois.
Tu as raison de dire que les gens n'acceptent pas les erreurs. Il faut leur apprendre à accepter cette erreur-là.
Je ne dis pas que c'est bien, que j'adore perdre un match sur un pénalty non sifflé. Je ne dis pas ça. Je dis juste que j'aime le football, j'aime aller voir un match de Ligue 2 ou de National.
Les arbitres sont contents d'arbitrer avec la VAR, c'est là que t'as tort. Les arbitres sont contents et soulagés. Ah, oui. Ils sont moins sous pression, mais bien sûr que si. Si la VAR était parfaitement utilisée, il se passe plus de menaces sur les arbitres. Si c'est beaucoup mieux utilisé, que les arbitres sont soulagés, qu'il y a quelque chose de, il y a par exemple l'IA ou un ordinateur ou quelque chose qui les aide.
Je ne maîtrise pas ce que va faire l'IA.
Non mais j'en sais rien, mais aujourd'hui, vous avez oublié tout ce qui s'est passé quand il y a eu des arbitres qui ont été menacés, il y a eu des joueurs qui ont été même tués parce qu'ils avaient raté des pénaltys. Oh, vous avez vu quand ça y a des débordements, il faut essayer de...
Évidemment, il y a eu des arbitres qui ont eu leur voiture vandalisée devant chez eux, bien sûr, on sait qu'il y a eu des dérives et qui sont extrêmement graves, bien sûr.
Aujourd'hui, les mecs, ils veulent plus arbitrer, pourquoi? Ils veulent plus arbitrer parce qu'ils ont pas la VAR, justement, dans le foot amateur, si, oh là là, je vais en prendre plein la figure.
Mais ils ne l'auront jamais, les gars.
La nouveauté de la Fédé, c'est d'installer quelques caméras, d'ailleurs, sur les arbitres, justement, pour essayer d'apaiser les tensions. C'est en test en ce moment par la Fédé, ça a été mis en place il y a quelques semaines. Kevin, merci d'être venu.
L'idée de Platini, à la base, cette dernière phrase, c'était quand même justement de ne pas dissocier le football professionnel et le football amateur. Et comme pour beaucoup de choses, il avait raison avant tout le monde.
Les enjeux ne sont pas les mêmes, Kevin.
On peut pas reprocher à des jeunes de choisir l'Arabie Saoudite alors qu'ils mettent tout le monde à l'abri sur trois générations et derrière parler d'enjeux et de dire ah ouais, mais pour la VAR, il faut la mettre
parce que Kevin, écoute tout Rotten sans flamme. Merci Kevin, tu nous régales.
Merci les gars. Quel rapport, Kevin.
Moi aussi je t'embrasse.
Tiens, je voulais juste terminer avec toi parce que Benoît Costil, toi t'as connu les deux. T'as connu le foot sans et avec la VAR. Est-ce que ça a changé? Est-ce que t'as apprécié terminer ta carrière avec de l'arbitrage vidéo alors?
Tu as eu besoin d'un petit temps d'adaptation, forcément.
Mais en tant que joueur, comment tu l'as ressenti toi?
Non, moi je trouvais que c'était bien. Ce qui peut améliorer le jeu, faut le laisser améliorer le jeu, quoi, en fait. Donc du coup, moi je suis, malgré les mots de Kevin Diaz que je découvre ce soir, je reste pour et sur ma position au même titre que Dugas. Et même si je suis aussi dirigeant dans un club amateur et que je sais que c'est très difficile au niveau des arbitres, etc. Et si on peut les aider, bah il faut les aider. Il faut essayer d'éduquer les jeunes de club à faire passer des formations pour devenir arbitre et etc. Je suis totalement d'accord. Mais ce qui peut aider le jeu, je suis pour. Donc moi je reste pour la VAR et pour que ça prenne un petit peu moins de temps sur des décisions qui sont évidentes. Quand il y a une semelle comme ça, par exemple, on fait un tour sur la VAR, il n'y a pas besoin de 2 minutes, bim, en 15 secondes c'est réglé, il voit l'écran, il y a l'image, arrêt sur image, basta, on n'en parle plus
et on avance. Et puis le foot va de plus en plus vite, il oublie aussi Kevin, il te parle d'un football il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, le football il est plus pareil quand même, ça va beaucoup plus vite, il y a 5 changements maintenant, le gardien qui peut jouer avec les pieds, enfin voilà, il y a plein de choses qui fait qu'aujourd'hui tout va beaucoup plus vite et le seul acteur que tu vas pas aider, c'est l'arbitre. Non, il n'y a pas de VAR, continue à arbitrer comme ça et tu te débrouilles, c'est pas grave.
Et surtout, aujourd'hui, on a les chaussettes relevées et plus élastiques sur le nez. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Merci à Amar et à Kevin Diaz qui sont venus participer à ce débat et dans un instant. La VAR de Rotten sans flamme, justement, on va parler de l'éclat de Didier Deschamps hier sur Kylian Mbappé, sur sa façon de jouer, sur sa façon de faire des efforts. Et puis, une petite info qui vient de tomber là de la part de Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Sachez que Paul Pogba a été retiré de la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc l'aventure Pogba à Monaco, on pourra en reparler d'ici quelques secondes avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Costil. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
19h29 sur RMC, Rotten sans flamme, avec ce soir Christophe Dugarry, Benoît Costil, Jean-Pierre Papin, le grand retour de Jérôme Rotten demain à 18h. Et donc dans un quart d'heure, tous contre Dugas. Eh oui, il est très motivé pour ce quiz, Christophe Dugarry. Le cadeau est magnifique, une carte cadeau de 100€ chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. Si vous voulez vous inscrire.
Pas seul, il y avait Kevin aussi.
Exactement. Kevin Diaz a peut participer. 32-16 touche 4 ou quiz par SMS au 7-32-16. On les réconciliera pas sur la VAR, ça c'est sûr. Bon, écoute, chacun son avis, ça donnait un bon débat.
Bah oui, bah oui.
Bon, bah justement, transition toute trouvée, l'arbitre vidéo nous appelle, écoute.
On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste, individualiste. Il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant, si tu veux juger Kylian et qu'il est, il doit faire au minimum 11 km par match, te fatigue pas, il ne le fera pas. Mais par contre, il a beaucoup d'autres qualités et qui sont importantes et décisives.
La VAR de Roten sans flamme.
Didier Deschamps qui a donc participé hier soir au Festival du journalisme sportif à Laval. Il y a eu un petit jeu de questions-réponses avec certains journalistes lors d'une table ronde et il a été interrogé.
Qu'est-ce qu'il foutait à Laval, il a craqué.
Ben voilà, il était invité. Écoute, il est venu participer à ça. C'est les,
oh là là, les relations. Oh, il a du temps libre, il a dû perdre un pari, c'est pas possible.
Ah bah, départ de Montparnasse pour aller sur Rennes, t'es obligé de t'arrêter sur Laval.
Ah voilà, c'est ça. Et je crois que ce soir, alors oui, il me semble que c'est ce soir, les légendes de l'AS Saint-Etienne, dont Jean-Michel Larquet, sont à Laval. Donc il se passe des trucs à Laval cette semaine.
Aussi. Oh, il a une vie lui aussi.
Tu préfères aller à Saint-Etienne ou à Laval?
Moi je bouge pas de chez moi.
Ah ouais, c'est tranquille. Ça. Ouais, je comprends. Donc cette réponse par rapport à Kylian Mbappé, le fait que forcément il parcourait beaucoup moins de distance que les autres joueurs sur un terrain de foot. Rappelons que l'an dernier en Ligue des Champions, sa moyenne de kilomètres parcourus c'était 8 km, hein, c'était un des pires ratios des joueurs qui avaient disputé la Ligue des Champions. Je voulais juste rappeler les stats de Mbappé cette saison parce que c'est quand même assez hallucinant. Avec le Real Madrid, c'est 30 matchs et 37 buts marqués en équipe de France, c'est 4 matchs et 5 buts inscrits. C'est donc la VAR de Roten sans flamme. Est-ce que cette déclaration est maladroite, les gars? Est-ce qu'on peut dire comme ça de son joueur star, bah voilà, lui il fait peut-être un peu moins d'efforts que les autres, mais c'est pas grave vu qu'il nous marque des buts. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Duga, de cette déclaration alors?
Non, je la trouve pas maladroite. Je la trouve plutôt rigolote d'ailleurs, et elle a le mérite d'être claire, je trouve, et assez franche. Voilà, sincèrement, moi c'est une réalité. Voilà, c'est juste aussi. C'est pas le dernier à être dithyrambique sur Kylian Mbappé, sur ses prestations. Aujourd'hui, Kylian, il a sa façon de jouer, il a ses qualités, il a ses défauts. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord avec ce qu'il est en train de réaliser avec le Real Madrid. On peut toujours après ne pas trouver l'être humain sympathique, égoïste, ce que tu veux. Après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et sur les uns, sur les autres, on porte tous notre croix. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Nous, on parle du foot, mais, surtout.
Voilà, exactement. Mais après, bon, les gens, je parle des supporters en général, tu vois, il y en a toujours comme des choses à redire, à trouver que c'est trop comme ci ou pas assez comme ça. Bon, écoute, nous aussi, moi aussi le premier, notamment moi, je le fais aussi. Chacun est libre de porter son jugement. Après, je trouve ça bien. Voilà, je trouve ça bien. C'est une réalité. Aujourd'hui, il a sa façon de jouer. Il n'y a pas une règle qui dit dans le football qu'on doit tous faire plus de 10 kilomètres. C'est pas inscrit. Je l'ai vu écrit nulle part. Donc voilà, il suffit de trouver un équilibre. Ça sera pas le seul joueur au monde qui fait partie, genre je parle des grands joueurs, et à ne pas faire plus de 11 kilomètres par match, c'est pas quelque chose qui me gêne. Voilà, moi ce qui me gêne dans les attitudes des comme ça des capitaines ou des leaders d'équipe ou des meilleurs joueurs, c'est qu'à un moment ou autre il doit y avoir un devoir d'exemplarité sur certaines attitudes. Après, t'es pas obligé de courir comme un zinzin, comme un numéro 6, comme un défenseur, comme d'autres joueurs, chacun ses qualités, mais il y a, voilà, dans ton comportement, dans ton attitude, voilà, il y a un exemple à donner. Ça, je pense que Kylian l'a aussi compris. Par moment, il le fait peut-être pas assez, lui aussi, il le reconnaît. Mais c'est la seule chose pour laquelle, pour moi, je trouve que c'est important. Et le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de pas faits ou pas faits, ça, c'est pas si important que ça dans l'absolu.
Jean-Pierre, t'es d'accord?
Complètement. Complètement d'accord. Je pense que pour certains joueurs, il peut y avoir des, on lui fout la paix tant qu'il est efficace, tant qu'il nous marque des buts. Moi, quand je vois jouer Mbappé, sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il court pas. Que je le vois jouer au Real, je le vois jouer en équipe de France, je pense que le mec fait les efforts. Après, sur certains points, tu pourrais toujours chercher à.
Quand il court moins que les autres, hein, c'est un fait, disant, Jean-Pierre. Ouais. Hein. Il court moins que les autres, ça c'est un fait.
Bah, moi, il court moins que les autres, mais je pense qu'il court plus à juste titre. Sur certaines actions, je pense qu'il est déterminant sur la façon dont il court, sur la façon dont il gagne ses duels, sur la façon dont il marque les buts. Après, comme le dit Duga, hein, tout simplement, il n'y a rien qui t'oblige à faire certaines choses. Moi, je pense que quand il court bien et qu'il marque les buts, je pense que tous ses autres copains sont contents de peut-être boucher les trous un peu plus pour lui. Ça, il n'y a aucun problème. Et moi, ça me va bien comme ça aussi.
Benoît Costil, est-ce que tu peux réveiller ces attaquants qui aimaient pas faire des efforts sur le terrain et leur dire que c'est important quand même, le collectif, le repli, de rester soudé, tout ça, quoi?
Chacun son style, chacun son profil, quoi, en fait. Non, mais je vois pas ce qu'il y a de négatif dans les propos du Didier Deschamps, en fait. Ce qui compte, c'est que à chaque fois qu'il accélère, à chaque fois qu'il touche le ballon, il fasse mal à l'adversaire, en fait. On lui a pas demandé de faire un marathon. Je veux dire, il est devant. Peut-être que dans des profils différents, des joueurs de couloir vont courir beaucoup plus. Des numéros 6, 8 vont courir encore plus. Lui, ce qui compte, c'est qu'il fasse des appels de balles au bon moment, la connexion qu'il va avoir avec son passeur, et puis qu'il laisse l'adversaire derrière lui et qu'il aille marquer des buts. Donc voilà, non, je trouve que c'est pas... Comme Christophe, je trouve que c'était un peu... Il y avait une petite note humoristique assez sympa. Bon. À Laval, finalement, c'était joyeux, c'était cool.
On fait regretter de ne pas y avoir été.
C'est ça, certainement. Non, mais c'est une critique qui revient souvent sur Mbappé. C'est vrai, les efforts faits ou pas faits. Et pour vous, c'est pas un problème pour les autres. Enfin, je sais pas, en équipe de France, t'as d'autres joueurs qui ont beaucoup de talent. Non, mais c'est pas un problème de le voir lui marcher, le repli défensif.
Il a pas dit qu'il fallait pas courir, qu'il faisait ce qu'il voulait.
Oui, enfin, c'est un peu.
C'est pour ça que je te parlais d'exemplarité. Quand il y a un petit effort à faire sur 10-20 mètres et de montrer à tes partenaires que t'es dans l'état d'esprit du truc. C'est ça qui compte en définitive. C'est pas. Après, c'est toujours pareil quand tu fais des choses avec semblant. Tu sais, il y en a des joueurs qui font semblant de revenir, qui font semblant d'attaquer, qui font semblant de. Ça existe. Non, mais voilà. Au bout d'un moment, ils vont faire l'effort pour montrer à l'entraîneur et puis jeter un coup d'œil sur l'entraîneur pour montrer qu'il a couru, qu'il a fait l'effort. Non, mais ça existe aussi. Après.
Le tacle glissé le long de la ligne de touche.
Ouais, le tacle pour les supporters. Tu sais, pour montrer que t'as montré que t'as fait l'effort. Mais voilà. Bah, je pense que c'est une question qui est décalé, qui est dans notre temps. Voilà, qui est dans notre temps aujourd'hui, même si on a la peur des data et qu'on contrôle beaucoup ça, le nombre de mètres. Je pense que c'est plus important, par exemple, de faire beaucoup de courses à haute intensité, et c'est ça qui est aussi intéressant de
ce que Guy Stéphane a dit d'ailleurs après. Il a dit lui, il fait beaucoup de courses à haute intensité.
Juste. Exactement. Ce qui compte pour lui, c'est de faire beaucoup de courses à haute intensité. Et pas les 11 kilomètres. Voilà. Donc, chacun doit être dans son registre. Aujourd'hui, le football est individualisé. Les data le sont aussi également en fonction du poste. Donc, je pense que c'est un faux problème, une fausse discussion. C'est plus une question polémique que quelque chose qui est réel dans le football d'aujourd'hui et qui a une réelle importance. Voilà. Alors après, si tu me dis, il fait 3 km par match, c'est-à-dire que moins que le gardien, je veux dire, bon, ben là, tu voilà, c'est quoi le problème? Ouais. Je pense pas qu'on en soit là, quoi.
Voilà pour Kylian Mbappé, la déclat de Didier Deschamps. Je voulais donc vous parler de cette information qui concerne l'AS Monaco et Paul Pogba, la liste des joueurs qualifiés pour le barrage qui attend les Monégasques contre le PSG est sortie. Et on n'est même pas surpris de voir que Paul Pogba n'y figure plus. Il était présent sur la liste lors de la phase de Ligue. Il n'a pas joué d'ailleurs en Ligue des Champions cette saison, Paul Pogba. Sa dernière rencontre de Champions League, c'était le 13 mars 2022 à l'Atlético de Madrid. On s'inquiète de plus en plus pour Pogba, qui a très peu joué même en Ligue 1. Il y a eu seulement 2 entrées en jeu. C'était face au PSG, 5 minutes le 29 novembre et le match d'après, le 5 décembre, 22 minutes de jeu à Brest. Écoutez d'ailleurs Thiago Scuro, le directeur sportif de l'AS Monaco, qui a évoqué le cas Pogba il y a quelques minutes en conférence de presse.
Les aspects médicaux, ils sont focalisés, on trouve les solutions. La première step est pour retourner au terrain, continuer à progresser avec l'entraînement pour avoir la condition de retourner pour le match. C'est un processus normal. Là, on a récupération de la blessure qu'il a été. Il n'a pas une réponse claire pour cette question. C'est un processus qui doit développer pour trouver toutes les clarifications qu'on a besoin.
Il a loupé les 9 derniers matchs pour une blessure au mollet. On est le 4 février. Est-ce qu'il faut acter l'échec Pogba, les gars? Est-ce que ça y est, on n'y croit plus du tout, du gars?
Moi, j'y ai jamais cru. Je l'ai souhaité vraiment du fond du cœur. J'adore ce joueur. C'est un joueur incroyable. Il savait faire tellement de choses. Alors, il savait faire, ça veut dire qu'il ne sait plus les faire, mais. Moi, il m'a ébloui, ce joueur. Je l'ai trouvé tellement différent des autres. Joueur unique. Après, il y a une réalité. Au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, le football, il a évolué. Aujourd'hui, il est devenu encore plus intense, encore plus physique. Avant de revenir à Monaco et avant sa suspension, déjà, il était en énorme difficulté. Il jouait déjà pas beaucoup. Les blessures qui s'enchaînaient.
sincèrement, je voyais pas comment c'était possible. Voilà, après, parce que jouer un match, jouer deux, c'est une chose, mais après, on parle d'enchaîner une dizaine de matchs. Comment t'enchaînes une dizaine de matchs au haut niveau quand t'as pas joué pendant 4 ans ou très très peu? C'était pour moi inimaginable. On l'a tous souhaité, mais la réalité du haut niveau. Et je vais te dire une chose, c'est pas plus mal. Parce qu'un mec a arrêté le foot pendant 4 ans, ou presque, et qui revient comme ça.
Oui, ça prouve la difficulté, c'est ça.
Voilà, aussi, au bout d'un moment, c'est pas rien d'être footballeur de haut niveau. Alors, même si des fois, on a envie de se cacher les yeux ou se boucher le nez quand on voit certains matchs. Voilà,
c'est. L'horreur a été fantastique.
Ouais, t'as des regrets du coup, Ben, tu crois plus, toi?
De moins en moins. Après. Moi, j'aurais tellement kiffé parce que voilà, j'admire le joueur, j'admire l'homme aussi, et on a tous suivi ses péripéties sur les dernières années, et donc du coup, on peut que lui souhaiter du bien. Maintenant, c'est tellement difficile de revenir après autant de temps hors des terrains. Déjà, rien que de retrouver le groupe, s'entraîner collectivement sur une période de 15 jours, un mois, c'est difficile. Alors encore en plus, après la compétition sur la durée, c'est très, très dur. Maintenant, le fait qu'ils sortent de la liste, Monaco, je suis pas sûr qu'ils envisagent. Enfin, ils aimeraient bien, mais ils vont pas aller au bout de la compétition.
Ils n'envisagent pas non plus une épopée, peut-être pas européenne.
Voilà, s'il n'est pas prêt d'ici un mois, trois semaines, un mois, et qu'il est sorti de la coupe d'Europe pour ça, bon, c'est pas trop grave. Je désespère pas de le revoir, qu'on ait la chance de le revoir un petit peu en championnat de France. Mais forcément, que plus ça va, plus c'est difficile, et ça m'embête vraiment de dire ça.
Jean-Pierre, t'y crois encore ou c'est fini?
Moi, je suis un petit peu David et Duga et Benoît, c'est que la réalité des choses fait aujourd'hui que Monaco a pris une décision. S'ils ont pris cette décision-là, c'est parce que ils estiment qu'il n'est pas capable de revenir, du moins en ce moment. Après, est-ce que c'est un adieu ou c'est un au revoir? J'espère que ce sera qu'un au revoir, parce que moi aussi, le joueur, j'adore ce joueur. Parce que je trouve qu'il m'a apporté aussi des émotions sur des buts qu'il a marqués, sur des actions qu'il a faites qui ont été franchement incroyables. Mais la difficulté aujourd'hui de ce métier de footballeur est là, et si t'es pas prêt à 200%, tu peux plus te reprendre, parce que c'est tellement compliqué que ça va être très difficile pour lui. Mais j'espère que le voir débuter en début de saison avec une vraie préparation, peut-être ça peut changer la donne.
Mais tu sais qu'on n'est même pas sûr de le voir rester à Monaco, hein, parce que Thiago Scuro a dit il y a quelques semaines, on fera un point à l'issue de cette saison.
Ça sera ailleurs, donc, c'est pas grave, ça sera ailleurs, mais voilà.
On lui souhaite, en tout cas. Ouais. Voilà pour l'info Pogba, voilà pour l'info Deschamps, et dans un instant, le plus grand moment de cette émission. Est-ce que Christophe Dugarry peut parvenir à remporter un quiz tout seul, mais comme un
quoi,
grand
c'est... Mais c'est quoi ces questions? Bien sûr que je peux, mais attends.
C'est ce qu'on va voir face à la doublette Costil, Jean-Pierre Papin.
Je vais le faire.
Bon, à mon avis, je connais Louis Gerbier, il a dû orienter le quiz pour te faire gagner. Allez, la réponse dans un instant. Roten sans flamme jusqu'à 20h sur RMC, à tout de suite.
RMC, partout.
C'est 18h-20h, Roten sans flamme,
Benoît Boutron.
19h45 sur RMC, Roten sans flamme jusqu'à 20h avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil, avec Jean-Pierre Papin. À partir de 20h, ce sera l'After Live, la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France, avec notamment 6 matchs qui vont démarrer à 20h30, Lyon-Laval, Lorient-Paris FC, Nice-Montpellier, Toulouse-Amiens et 3-Lens. Il est là, on peut y aller, c'est le quiz de Louis Gerbier.
RMC, tous contre Dugarry.
Eh oui, tous contre Dugarry ce soir. Salut Louis Gerbier.
Salut l'équipe.
Est-ce qu'il est capable de gagner un quiz tout seul?
Oh, j'en suis sûr.
Attention à toi, mon poulet.
Toi aussi, tu sais où j'habite.
Les menaces.
Il y a trop de fuites de données dans ce pays, c'est pas possible.
Ouais, et nous, on balance.
N'oublie pas les places aux voisins de Paris.
Eh oui, on a acheté le quiz, l'homme du quiz. Et bravo, Benoît.
Victoire de Benoît Costil, c'est magnifique. Oh là là, quel quiz.
Bon, on va s'affronter ce soir pour une carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett. Hervé et Thomas, bonsoir. À vous deux.
Bonsoir.
C'est incroyable, on a deux supporters du Stade Rennais en plus. Qui veut jouer avec Duga, Hervé ou Thomas?
Moi, je souhaiterais prendre Benoît.
Ils veulent pas. Arrêtez.
J'aimerais Benoît, mais.
Bon, je vais désigner. Hein, tant pis.
Non, mais c'est parce que je suis supporter Rennais aussi. Donc,
Et ben alors.
En face aussi. Donc,
bon, allez, c'est cool. Déprime. Ouais.
Allez, écoute, demande aux joueurs d'en face. Allez.
Fair play.
Prends Christophe, t'inquiète pas, on se verra dans le centre-ville de Rennes.
Ouais, alors. Bon, Thomas, tu veux bien jouer avec Duga?
Ça va bien se passer, ça va bien se passer.
Allez, Thomas, allez, Dugas.
Tu ne regretteras pas. Allez, allez, vas-y.
Regardez avec le reste du monde.
Calise jusqu'à la
ligne. Il ne te respecte pas, Dugas, c'est
fou. Ah ouais, non, c'est terrible. C'est
oh, champion du monde, champion d'Europe, là-haut. Oh.
Ah ouais, on ne fait pas du quiz, donc vas-y, en bois.
Allez, bah, le thème du soir, ça va être à peu près tous les matchs du soir en Coupe de France.
Okay.
Voilà, un petit panaché.
Ça va aider Dugas.
Oh là là. Et on va commencer avec Lorient Paris FC et surtout. On va commencer avec une nouveauté, une mise à jour, la nouvelle question Papin. Quel ancien coéquipier de Jérôme a rejoint Newcastle après son départ définitif du PSG?
Tu peux répondre ou pas?
Oui,
Jérôme Pancrate.
Ah là là, presque.
Merci,
presque.
Merci, c'est sympa, bah, c'est adorable. Bravo Jean-Pierre.
Bah, c'est quoi alors?
Et donc, on passera, j'étais pas loin.
Et donc, bah, la règle, c'est que là, je vais vous poser une question. Il faudra me répondre la réponse, le nom du joueur, mais en l'appelant Jérôme. Exemple, quel joueur a marqué le premier but des Bleus à la Coupe du Monde 98?
Jérôme Dugarry.
Jérôme Dugarry.
Oh, très bien. Allez, bah, bon,
vas-y. Allez, c'est parti.
Oh, j'ai honte.
Ah, moi, je te remercie parce que ça va nous faire une bonne question.
Tu m'étonnes.
Quel joueur prêté cet hiver en Europe a été formé au Paris FC et à Lorient?
Oh.
Les auditeurs doivent savoir.
Formé à Paris FC et à Lorient.
Benoît, quand même.
Il a quitté l'Europe cet hiver.
Allez, je dis où?
Ouais.
Au Portugal. En prêt, hein.
Ah bah oui. Ah évidemment.
C'est Fofana?
Bah non.
Bah non, du coup.
Jérôme Fofana?
Oui, bonne réponse.
Pour le reste du monde, crack.
Ça confirme bien qu'on ne souffle rien dans l'oreillette.
Ouais, ouais. Hein, et ça confirme que Dugas aura du mal à gagner ce quiz tout seul. C'est... pour le reste du monde et pour
Quelle idée de parler de. On ne sait pas qui c'est Seco Fofana. C'est Jérôme. Non, c'est Jérôme Fofana. Le grand joueur. Allez, on passe sur 3 lances. Un match qui peut arrêter un incendie. Parce qu'avec 3 lances, tu peux arrêter un incendie.
Ouais, ouais, c'est bon, on a compris.
Allez, enchaîne. Allez, question costile.
Oh oui, Greg, il la sort. Ah oui. Oh oui, va opposer Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Ah, ça suffit.
Quel ancien gardien du Paris Saint-Germain a joué à 3 et Lens, formé à Auxerre?
Oh.
Il a joué à la Berrichonne, Guingamp, Nancy.
Oui,
Jérôme Hernandez.
Non.
Mais Fernandez, Jérôme.
Le Krob,
bien joué.
Ah,
c'est Fernandez à la Berrichon, Benoît.
Il nous a dit Wimbe. Grégory.
Ah, Wimbe, il a pas joué à Nancy, Wimbe.
Mais c'est Wimbe.
C'est Wimbe.
Ah, Wimbe. En plus, j'ai joué avec lui et tout.
T'as cru que c'était un personnage du Roi Lion ou pas, Wimbe?
Ouais.
J'ai joué avec lui, il a dit. Et après, tu t'étonnes, les auditeurs, ils te respectent pas. Tu respectes même pas tes anciens coéquipiers.
Mais si.
Incroyable, quoi. Bah, merci du gars.
Allez, les chers auditeurs, tribune Mordel, tribune Super U.
Ah ouais, tribune Super
U. Qui est l'entraîneur Lensois?
Pierre Sage.
Bravo.
C'est une vraie question, ça.
Hein?
C'est une vraie question. Alors.
Oui, oui, mais.
Qui a dit Pierre Sage?
C'est facile pour les auditeurs.
Thomas, ça fait 2-1 pour Dugas et Thomas.
Et rebranchez-moi, moi.
Non, c'est question auditeur, JPP. Il y a que les auditeurs.
Allez, question con.
Allez, hein.
Qu'est-ce que vous êtes con?
RMC.
Mais qu'est-ce que vous êtes con, alors?
La question con.
Ah. 2-1 pour Dugas et Thomas.
Niveau très difficile.
Oh là là.
Non, difficile. Ah. Quel joueur passé par les deux clubs est riche comme Crésus?
Quel club?
Bah, je l'ai dit, 3 Lens.
Quel club passé? Ah, quel joueur?
Fortuné!
Oui, Kevin Fortuné!
Kevin Fortuné!
Ouais,
oui.
Il est en train de nous faire mentir. 3-1 pour Dugas et Thomas.
Un point commun avec toi, ça.
Ah, bah, les guignols, là, ils n'allaient pas me battre, non, mais tu plaisantes.
Allez, on passe. Alors là.
À l'apéro, oui, mais pas le reste. Non, surtout pas.
On passe.
Oh non, surtout pas là.
Ouais, mais fuis-toi, t'as un breton pur souche, hein,
ouais,
toi.
Ouais, t'as un breton, il boit pour deux, t'inquiète, Jean-Pierre, tu regarderas, tu serviras les verres.
Les réputations, tout de suite.
Ben après, Benoît, quand je suis allé à Rennes, tu m'as pas donné des conseils pour la bibliothèque.
Non.
En revanche, les bars, j'avais. J'avais un bon
j'ai cru cerner ton profil, quand même.
C'est ça, bravo.
Ouais, tu t'es adapté à l'audience, bien joué. On va passer au main event Lyon-Laval.
Ah oui.
Là, c'est le main event. Question, t'y rendis compte. Ah.
ti rendi conto se tu posi una questione a un supporter italiano che ha da qualche anno, chi è stato più forte?
Stante più forte.
Et là, pour le coup, je dirais quand même niveau très difficile. Hein.
Ah.
Formé à Laval et passé par l'OL, quel triple champion d'Autriche avec Salzbourg joue à l'Udinese?
Oh purée.
J'ai failli dire que ça valait deux points.
Mais, je te la laisse, du gars.
Si vous l'avez pas, on enchaînera.
Joue à l'Udinese.
Ouais, ouais, il est pas hyper connu.
Il est français?
Ouais.
À l'Udinese.
Il joue en ce moment à l'Udinese.
Ouais. Oumar.
Ah oui, je l'ai.
Solé.
Oui, bravo.
C'est qui?
Benoît Costil.
Oh, magnifique.
Ouais, ouais.
Ah, point 2,
ouais.
Réduction de la
guerre. Il n'a pas dit avec l'accent.
Les deux points,
c'est
ça.
Ah, c'est vrai, l'accent.
Solette.
Ah oui, Solette.
C'est trop tard. Au moins l'accent breton. Au moins l'accent breton. Je ne sais pas, moi, quelque chose.
Au moins, toi, Wimbé, tu l'avais dit avec l'accent, toi, du gars, au moins. Ouais, c'est vrai.
3-2. Christophe, tu peux m'avoir des places dans quel stade, si tu veux, pour savoir quelle réponse. Si tu veux une réponse. On enchaîne avec une question flash. Quel est le nom du stade de Laval?
Facile.
Laval, le stade,
Francis Le Basset.
Eh bien, bien sûr.
Voilà, tout simplement. Trois partout entre Dugas et le reste du monde, entre Hervé et Thomas.
La friterie chez Google.
Ah oui,
le Joker Kings League.
Et ça, c'est une dinguerie. Dinguerie.
Tu sais ce que ça veut dire, le Joker, Dugas?
Pas sûr.
Vas-y, explique-moi.
Ouais. Non, c'est quoi la règle quand même qui date depuis le fin août?
Il sait pas.
C'est génial. Si tu réponds bien, t'auras deux points. Si tu réponds mal ou les autres répondent, tu vas perdre un point.
Voilà.
On en était où? Ils m'ont perdu. Nice-Montpellier. On enchaîne avec Nice-Montpellier. Question flash. Quel joueur passé par les deux clubs n'est resté que trois jours à la Saint-Etienne?
Anthony Mounier.
Bravo, Anthony Mounier. Bravo, bravo, bravo.
Ah, ça fait
c'est Benoît,
4
hein,
à 2 désormais parce que Dugas perd un point. Et 4 à 2 donc pour le reste du monde et pour Hervé.
Question con numéro 2.
Qu'est-ce que vous êtes con?
RMC, la question con.
Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
Quel joueur a été... Donc on est sur Nice-Montpellier. Hein.
Ok.
Il a joué dans les deux clubs. Quel joueur a été apporté à Jésus par Melchior? Melchior, il a amené...
Balthazar.
Non. Il y en a un qui a amené de la myrrhe, l'autre qui a amené autre chose, puis l'autre qui a amené encore autre chose. Bon, bah Melchior, il a amené...
De l'or?
Oui!
Allez, papa! Et oui, crack! 4 à 3.
Sinon, j'avais... Il est sûrement présent au poignet de Christophe.
Eh oui, pas mal.
Ça aurait pu marcher aussi.
4-3 pour le reste du monde.
Question flash, quel joueur passé par les deux clubs joue actuellement à Nice? Il est prêté à Nice.
Il est passé par Montpellier et Nice.
Ouais.
Eli Wahi.
Oui,
oh, crack.
Eli Wahi, bien sûr.
5-3 pour le reste du monde.
Score est remis à zéro.
Oh là 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 là, c'est rageant.
Quel scandale.
Surprise. Ah, c'est rageant.
C'est tellement rageant.
Allez, du gars, lave ton honneur.
Parce que nous, on la voit en studio et là, c'est vrai que c'est rageant.
C'est arrêté
parce que,
à ça de statu quo.
Ouais, juste avant, c'était statu quo.
Aïe.
Ouais. Bon, bah, comment vous départagez autrement qu'avec une question Savidan?
Ah oui.
Bah, c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi la question Savidan déjà?
Bah alors en fait la question Savidan, je vais citer tous les clubs de la carrière d'un joueur qui est passé que par des clubs pas hyper florichons quoi.
Ah ouais, un peu comme Steve.
Comme Steve.
Ah ouais, d'accord.
Certains pourraient nous trouver lourdeaux, mais quand on voit que Dugas n'a pas la règle du Joker 6 mois après, finalement, c'est peut-être utile. C'est peut-être utile.
Allez.
Allez, on cherche un joueur passé par les deux clubs. Carrière de 94 à 2015. Nîmes, Auxerre, Bastia, Stade Rennais, OGC Nice, Montpellier, Istres.
Cyril Jeune-Champ.
Oh là là, il est trop fort.
Incroyable, Benoît Costil.
Cyril Jeune-Champ, Benoît Costil.
Ah ouais, là c'est dur. Bravo, bravo Benoît Costil.
Comment tu peux voir ça
là?
Il y a un truc là.
Bah, il a joué avec.
Non, il y a rien. Non, pas du tout.
Ah non?
Non.
Ah bravo,
comment t'as su alors?
Culture foot.
Ben parce que j'ai une culture foot, exactement. Ben voilà. J'ai lu France Football pendant des années, je joue à Football Manager et puis voilà quoi.
Et bravo. Et j'embrasse Steve Savidan qui m'envoie Jeune Champ. Bravo, il a joué à distance.
Ah, il a joué à ça.
Tu joues au foot et tu prends Jeune Champ. Alors là, je comprends pas. Rien.
Ah, bien sûr, je joue depuis des années.
Bravo à Hervé qui remporte ce magnifique cadeau. Félicitations.
Tous contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Merci à Louis Gerbier, merci à Benoît Costil, Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin. Dans un instant, c'est l'After Live pour la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France avec 6 matchs qui démarrent à 20h30 et le retour de Roten sans flamme demain à 18h sur RMC avec Jérôme Roten pour lancer le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille d'ici là. Bonne soirée à tous. Ciao.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.